c'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Le 120e derby du Nord remporté par Lille 2-1 face à Lens. Le match a été sympa. Ah, regardez, c'était un beau derby, bien engagé, beaucoup de choses à dire. Peut-on parler de leçon lilloise ce soir? On en parlera avec tous nos copains. Présentation, allez, express, avec un président, c'est Raymond Domenech, dans votre ville-peuple, mon cher Raymond. Ah, on avait prévu peut-être une présentation plus longue. Président Domenech, bonsoir. Ah bon, bah, je, voilà. Bonsoir. Ah, bon, bonsoir, président.
Ah, ça fait nettement plus long.
Là. Ah bah oui, bah oui. Dans votre ville-peuple. Voilà, bon, jingle. Nabil Djellit, notre fenêtre.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bonsoir, mon Nabilou. La reine mère est dans la place. Elle est là, bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va, très bien. Pia Clément est dans la place également. Bonsoir, Pia.
Salut.
Il y a Classico hein, dimanche. Hein.
Il y a Classico dimanche. Il y avait Ligue des Champions hier soir pour nos féminines. On est pas mal cette semaine.
Ok. Et puis Greg Schneider, complète.
Bonsoir, messieurs, dames.
Ce quatuor de votre ville-peuple, mon cher Raymond. Bonsoir, mon cher Greg. On file direction Lille, où Lille s'est imposée en ouverture de la 27e journée. 2-1 contre Lens. Les images avec Tanguy Le Cellier. Bonsoir, Tanguy.
Ce sont les Lillois qui s'imposent dans ce derby du Nord. Victoire 2-1 des Dogs avec Edon Zegrova, parfaitement trouvé par cette transversale de Nabil Bentaleb. Derrière, eh bien, le Kosovar va frapper au premier poteau, ce qui trompe Brice Samba. On revoit la transversale magnifique de l'Algérien. Le contrôle également de la part du Kosovar. Et ce tir au premier poteau derrière, eh bien, Zegrova, on va le retrouver sur cette magnifique action lilloise. C'est Gudmundsson qui s'offre ce grand pont sur Frankowski. Il est à l'affût dans la surface de réparation. Doublé pour Zegrova. Les Lensois vont revenir, vont réduire l'écart grâce à Eliwahi.
Oui.
Mais ça ne va pas suffire. Ce sont les Lillois qui s'imposent. Ils sont troisième de Ligue 1. Ils reviennent à un point de Brest qui est deuxième. Brest qui se déplacera à Lorient ce week-end. Les Lensois, eux, sont sixième, mais peuvent voir revenir Rennes et Marseille ce week-end.
Chers chroniqueurs, chers téléspectateurs, Zegrova MVP, faut-il considérer Edon Zegrova comme une star de notre championnat? Ça sera dans quelques minutes. Mais pour l'heure, le 120e derby, donc remporté par Lille, peut-on ce soir parler de leçons de Lilloise? Habillage à la Dog, s'il vous plaît. Et je passe ramasser les copies. Oui ou non, Pia?
C'est quoi la question?
Peut-on parler de leçons Lilloise ce soir?
Oui.
Monsieur Schneider?
Non.
Non. Monsieur Djellit?
Moi, j'ai envie de dire oui.
Oui. Madame Dalma?
Non.
Non. Président Domenech. Tu veux adresser un petit conseil de production à la régie.
S'ils sont prêts.
Ah, si, peut y aller. Ils sont pas prêts là. Attendez.
Ils sont pas prêts.
C'est pas moi.
Hein?
C'est pas moi. C'est
président. C'est moi qu'il faut. Voilà.
Voilà.
C'est ça. On y va. C'est parti.
J'ai deux noms. Greg et Siani. On est bien d'accord. Qui commence?
Comme tu veux, Siani.
Allez, je te laisse commencer.
Ok. Pia et Nabil, pour les oui, qui commence?
Je te laisse choisir, Pia.
Alors, je commence, s'il te plaît.
Ok.
Franchement, tu fais comme tu veux.
Je commence.
Alors, attention, Pia,
oui.
C'est une minute, mais pour les deux.
Enfin, ouais. Oui.
Non, vous faites comme vous voulez, je veux bien. De toute façon, vous
faites en moins.
Peut-on parler de leçons lillois ce soir? Elle a répondu oui, Pia, on vous écoute. Vous êtes associé à Nabil Djellit. Le super de est parti.
J'ai répondu oui parce que j'ai trouvé que c'était du début à la fin du match Lille qui avait imposé son jeu à Lens. J'ai trouvé les Lensois trop frileux. Ils se sont un peu réveillés sur les 10 dernières minutes et en fait c'était un peu trop tard. Et j'ai eu le sentiment que Lille était mieux organisée et avait plus de sang-froid dans ce combat. Ce qui fait que je me suis un peu ennuyée sur une partie du match à cause de ce sang-froid.
Ok. Et Greg Schneider reprend la main. Vous répondez non. Pourquoi ou non? Pourquoi c'est pas une leçon lillois ce soir?
Alors, c'est une leçon sur l'intensité athlétique. J'ai pas de doute avec ça. C'est aussi une leçon de don de soi. Vous avez qu'à regarder les statistiques de course. Vous avez que des Lillois aux premières places, mais ça va pas au-delà. Et pour que moi j'entende parler d'une leçon de football, faut que ça dépasse un petit peu l'intensité athlétique, la qualité dans les duels, la détermination. Il faut qu'il y ait une assise technique, il faut qu'il y ait quelque chose qui m'emmène un petit peu plus loin. Alors, ils ont mérité de gagner ce match 100 fois. Il n'y a aucun souci, mais ils l'ont gagné à la maillotche. Ça leur enlève rien, mais c'est pas allé suffisamment au-delà pour que je parle de son football.
Ah, ok. Nabil, à vous de jouer.
Pour moi, ce soir, il y a un score en trompe-l'œil. 2-1, ça ne doit pas être 2-1, ça devait être 3-0. C'est Wahi qui a eu un éclair sur son talent qui a fait la différence. C'est une leçon tactique puisque Lille a déjoué le pressing intelligemment de Lens. Lens n'avait que de l'intensité à proposer, ça a été déjoué par Lille. Et puis il y a un truc qui a vraiment fait la différence pour moi, on en parlera tout à l'heure avec Zegrova, c'est que du côté de Lille, en fait, j'ai vu des talents supérieurs par rapport à l'escouade de Lens. Ben Taleb, si c'est pas de l'assise technique de faire le quarterback et balancer un ballon comme cross sur Zegrova, je sais pas ce que c'est.
Ok, ce super duel n'est pas encore terminé. On passe par la case Siani Dalmar.
Bah, effectivement, pour qu'il y ait une leçon, je pense qu'il aurait fallu que Lille surclasse quand même beaucoup plus Lens. Je trouvais apparemment que c'était équilibré. Lens a fait un bon début de match. Ils ont été surpris à la 9e minute par ce but de Zegrova. C'est dommage parce qu'ils avaient vraiment bien commencé. Lille a fait preuve de beaucoup plus de réalisme. Alors, il y a peut-être une petite leçon de réalisme, mais globalement, pour qu'il y ait leçon de football, je trouve qu'il aurait fallu qu'il y ait vraiment une gifle monumentale des Lillois. Ce qui n'a pas été le cas, je pense que Lens a mal géré ses temps forts aussi, ce qui est dommage, et que peut-être que Wally est rentré trop tard, ou peut-être qu'il aurait fallu qu'il soit titulaire.
Ok, mes amis. Raymond, leçon ou pas leçon ?
Il y a une leçon dans l'intensité, il y a une leçon dans l'efficacité, il y a une leçon dans l'organisation. Pour moi, oui, je veux dire, c'est net, à aucun moment on pouvait penser que Lens pouvait gagner ce match-là. Je veux dire, sur la première mi-temps, c'était flagrant, même si on a eu le sentiment au premier quart d'heure que Lens gardait un peu le ballon, gérait un peu, mais sans créer d'occasion. Ils ont une occasion, je crois, sur la tête, sur un corner, c'est Chevalier qui la dévie, à 75e minute.
Tête de Sotokar, 76.
Sinon, ils n'ont pas de situation, ils n'ont pas d'occasion, ils n'ont pas pesé.
Laborieux.
Ils ont joué comme ils jouent d'habitude, mais ils ont ce qui leur manque juste depuis un petit moment, cette efficacité, ces occasions de but, ils ont plus. Et ils sont en difficulté. Donc, pour moi, oui, il y a une forme de leçon dans ce match.
Ok, donc c'est Pia et Nabil qui s'imposent. Du côté de la leçon, nous allons aller voir notre envoyé spécial, Giovanni Castaldi. Giovanni, vous, vu du stade, vous répondez oui ou non à cette question de leçon lilloise ?
Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Même si je comprends la partie qu'a évoquée Greg quand on entend leçon de football, moi j'ai trouvé que parfois, et notamment la fin de la première période, Lille aurait pu se faire surprendre. Ça a aussi été le cas sur les 10 premières minutes de la première période, de la seconde période. Je vais y arriver décidément. J'ai été perturbé par le match. Mais sinon, globalement, le match qu'a proposé Lille, et ben voilà, j'ai bafouillé trois fois et le coach arrive, donc vous ne m'entendrez pas plus. Franck Hesse qui est présent en conférence de presse.
Voilà, un petit zoom. De Sébastien Bois, notre correspondant. Oui. On fait le point, on tourne bien la molette. Voilà. Ouais. On abaisse le diaph. Francaise est net. Franck, il ne m'entend pas, mais je vais faire le faux direct. Vous êtes en direct dans l'équipe du soir. Parlez tranquillement. Francaise, conférence de presse, c'est à vous. Bonsoir.
Est-ce que le petit avantage de Lille sur le score final ne cache pas la large supériorité du LOSC sur l'ensemble de la rencontre ?
Je pense que la victoire de Lille est logique. Oui, ils ont une équipe qui nous a été supérieure, alors pas dans tous les moments du match, mais qui nous a été supérieure globalement. Je pense qu'on a essayé de donner ce que l'on peut donner, même si à l'image du premier but qu'on encaisse, c'est un but qui est largement évitable parce que le positionnement est pas bon, mais pour autant, au-delà de ça... Voilà, je pense qu'on a donné le maximum, ou pas loin du maximum, mais qu'il nous en manque ce soir, c'était visible, et contre d'autres adversaires du niveau de Lille, ça a déjà été visible. Voilà.
Bonsoir coach, juste là au fond, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Ce que vous évoquez sur les manques, on a l'impression que vous êtes assez... Il vous manque de talent, en fait. Enfin, je veux pas parler à votre place, mais on a l'impression que c'est ça, quoi. Il vous manque de qualité sur beaucoup d'aspects.
En tout cas, quand on est face à ce niveau d'adversaire, il nous manque plus de justesse, plus de justesse technique, plus de vitesse parfois, plus... Et parce qu'on ne se crée pas beaucoup d'occasions dans un match comme celui-là. Les deux équipes ont fait un gros match avec leurs armes et leurs arguments, je trouve. Nous, avec les nôtres d'arguments, on a. Mais si vous êtes mené contre Lille, ça complexifie encore le problème. Et là, il nous en a manqué. On est obligé de le reconnaître. Et je suis. Enfin, voilà, c'est très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. si on était battu parce qu'on ne donnait pas le maximum. Je vous tiendrai un discours différent, mais parce qu'aujourd'hui, les joueurs ont encore beaucoup donné, mais on a été battu logiquement pour autant.
Et comment on résout ce problème-là, alors?
Il faut améliorer encore l'équipe. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et je ne vais pas incriminer qui que ce soit, mais il faudra encore améliorer l'équipe tant que faire se peut pour pouvoir se hisser au niveau des tout meilleurs. Mais ce n'est pas encore notre cas, en tout cas, ce n'est pas notre cas cette saison.
Franck, Sylvain Charlet pour France Bonheur, au fond sur votre droite. Qu'est-ce qui stratégiquement vous a gêné dans ce que vous a proposé Paulo Fonseca aujourd'hui? Il y avait notamment une animation défensive un peu différente avec Ismaili dans la défense à 3 oui. Et Gudmundsson et Thiago Santos dans les couloirs.
Ils ont défendu à 5. C'est pour ça que assez rapidement j'ai demandé à Flo de dézoner encore un peu plus pour qu'on ait un peu plus de. Qu'on ne soit pas fixé sur leur défense, mais qu'on arrive à trouver nos animateurs un peu plus dans le cœur du jeu. Ils ont aussi avec Haraldsson dézonné sur le plan offensif, et même si ça je trouve qu'on l'a plutôt pas mal géré. Voilà, chaque équipe essaye de poser des problèmes à l'adversaire. On a vu assez vite cette défense, cette animation à 5 quand ils défendaient. On sait que c'est pas toujours facile pour nous d'être efficace ou juste face à ce type d'animation défensive, mais qui matche un peu plus, mais c'est à nous de trouver aussi les solutions.
Bonsoir Franck. Qu'est-ce qui vous a motivé à démarrer avec Wesley Saïd en pointe? On avait vu beaucoup Wahi commencer les matchs ces derniers temps. Et c'est qu'une question de fraîcheur?
C'est pas qu'une question de fraîcheur. Les deux derniers matchs d'Eli, j'en ai discuté avec lui. Je n'avais pas été satisfait, au-delà de la perf de ces deux derniers matchs, de ce qu'il avait donné par rapport à tout ce qu'il avait donné avant et de la pente ascendante dans laquelle il était. Et ça reste un jeune joueur, et moi je suis un vieux coach, et que je suis obligé de faire certains choix pour passer des messages. Voilà, et Wesley était, même si ça a été une soirée difficile pour lui, Wesley était très bon depuis un moment à l'entraînement. Évidemment, j'aurais préféré que Wesley marque un but et que Eli marque le deuxième. Mais vous savez, quand on fait des choix, j'en ferai encore quelques années. Quand on les fait, on est sûr qu'ils sont bons. A posteriori, des fois, ils auraient pu être meilleurs, mais je continuerai à faire des choix, des bons, des moins bons, des échecs. C'est la vie d'un entraîneur, ça. Mais je ne le regrette pas, voilà, en tout cas.
L'entrée d'Eli, Franck, a vraiment... rapprocher votre équipe du niveau de Lille, elle a apporté deux choses essentielles, la profondeur et la vitesse, qui ont vraiment inversé le rapport de force.
Et la justesse.
Et la justesse, pardon d'avoir oublié cette notion. Est-ce que vous dites que vous ne regrettez pas, et je le comprends, par rapport aux intentions de ne pas titulariser et ce qu'il avait comme manque, mais est-ce que, au regard du match, c'est difficile d'avoir du recul, surtout après, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé?
Ah oui, non, mais que oui, vous pouvez évidemment dire que je me suis trompé, de toute façon... ça, il n'y a aucun problème. Mais moi, je ne vais pas changer les convictions que j'avais en avant-match, parce que au-delà du match d'aujourd'hui, c'est des messages que je veux faire passer à un joueur, à un groupe, à une équipe. Et ça, c'est les messages qu'un coach qui vit avec son équipe peut faire passer. Si je ne les fais pas passer, je ne suis pas un coach non plus. Ça n'empêche pas que des fois, on fait passer des messages et puis ça fonctionne. Puis des fois, mais je trouve qu'il a fonctionné dans le sens où Eli a été très bon quand il est rentré. Oui, parce que il était sur une phase ascendante, il travaillait très très bien. Et moi, j'attends, vu les qualités d'Eli, son potentiel, je veux qu'il aille le plus haut possible. Et moi, je suis son coach. Pour l'instant, je suis son coach. Donc, tant que je vais être son coach, je vais être derrière lui. Il sait que je suis derrière lui et avec lui, mais aussi derrière lui pour le piquer, parce que je veux que ça soit encore un meilleur joueur.
Voilà, c'était Francaise, on va le laisser tranquillement. Là, une question un peu piquante de notre copain Joël Dominighetti. Ouais. La réponse est vachement intéressante de Francaise, elle est intelligente, elle est sensée. Il nous ouvre un peu la porte de son travail, sans confrontation. C'est vachement bien ça, je trouve. C'est rare,
Lui, on est habitué.
Il rentre bien.
Conflit, il sait expliquer les choses.
Ouais.
Et en plus, il avait quand même donné une partie de la réponse avant,
ouais.
Par rapport à Wahi. Mmh. Je veux dire, il avait été moins bien, il lui a expliqué, il en a parlé, il est avec lui, il le défend, et il le réexplique devant tout le monde. C'est souvent ce qu'on a du mal à faire, c'est de parler de ces de ses à côté.
À chaud.
À chaud, comme ça, pour expliquer un match et pour, bah, pour dire que. C'est comme il le dit. Il dit on peut dire après qu'il s'est trompé, c'est ce qu'il dit. Mmh. Mais il dit, mais il ne va pas renier ses convictions du moment parce qu'il a. Il a autre chose que derrière en disant oui. Ouais, il faut l'amener plus haut, il faut lui faire quelque chose, il faut lui faire passer un message et il nous explique comment il le fait passer. Et il a raison parce que les derniers matchs de Wai n'étaient pas très très bons.
Juste pour revenir en conférence de presse, quand on est entraîneur, c'est vachement douloureux quand on a perdu un match de prendre la parole comme ça.
Oui. Tout dépend des questions. Je trouve que. Mais peut-être que certains entraîneurs suscitent des questions différentes. Et oui, et lui suscite des questions de foot, où les gens essayent de parler, et il peut expliquer. Et on a souvent, quand on arrive, on a des questions agressives qui bloquent, et qui font que, allez-y, et on s'en fout.
On parle de Franck, là.
Oui, non, mais moi je parle des autres aussi. Il y a des attitudes différentes d'entraîneurs qui sont confrontés à des oppositions de questions qui ouvrent les possibilités de répondre ou pas.
Giovanni Castaldi, juste sur ça, parce qu'il s'est passé un truc à la fin. Non, il n'y a pas eu de. Il y a pas eu de gueulante de Francaise, non? Non? Vous voulez reprendre la parole?
Ah non. Ah non, absolument pas. Il n'y a pas eu de gueulante de la part de Francaise. Non, c'est juste que là où je rejoins Raymond à 100% pour en faire pas mal de conférences de presse, c'est vrai qu'il a quelque chose, même quand il perd et que ce soir il a fait des choix qui n'ont pas été payants, il est rarement poussé dans ses retranchements, il est rarement agressé. À titre de comparaison, celui que je fais le plus, c'est Luis Enrique. C'est sûr que les questions, elles sont posées de manière peut-être un peu moins sympathique parce que Francaise donne beaucoup, il explique énormément, il est généreux, on a vraiment envie d'avoir un échange avec lui, c'est assez frappant. Même moi, quand je lui pose la question, quand il a un constat froid et glacial sur le fait qu'ils ne peuvent pas aller face au gros, sans taper sur sa direction, mais il le fait de manière habile. Si on veut progresser, si on veut être une équipe de Ligue des Champions, il faut investir plus, il faut avoir des joueurs de meilleure qualité. Donc c'est vrai que c'est très facile et très agréable de converser avec Francaise.
Il le dit déjà depuis quelques temps, là, après la double défaite contre Paris, contre Monaco, contre Nice, c'est là un peu la nouvelle marotte. Lens, c'est bien cette année, mais dès qu'on rencontre des clubs qui sont huppés, voilà, il nous manque un truc, c'est le plafond de verre de Lens.
Il manque les joueurs qui
l'ont évoqué ce soir. Ouais.
La deuxième partie de la saison dernière.
Fofana, puis
Openda, surtout, qui est plus beau. Et il y a un autre joueur qui est encore là, dont on ne parle pas beaucoup, et qui, à mon avis, manque énormément, parce que j'en compterai trois pour le coup, c'est Machado à gauche. Mmh. Un coup c'est Chavez, un coup c'est Aïdara. Mmh. Quand on voit la manière de jouer, le rapport de force sur les côtés, je me souviens du match face à Arsenal, Machado.
Dégagement de Samba sur Machado, ça faisait du bien.
Il
y avait une connexion qui était assez,
à un moment,
assez naturelle.
À un moment, je veux bien l'organisation, l'intensité, l'état d'esprit, mais à un moment, le football, c'est le talent aussi. Mmh. Et là, je trouve qu'il y en avait moins du côté de Lens.
Pendant notre échange avec Raymond Domenech, j'avais deux élèves de l'équipe du soir qui levaient la main comme ça. Pierre Clément au tableau et Grégory Schneider au tableau. Alors, Pierre, qu'est-ce qu'il y a?
Je voulais juste dire sur Francaise que moi, quand j'entends des coachs faire ce genre de conférences de presse, à la fin, j'ai envie de monter sur la table et de dire au capitaine, mon capitaine, parce que. On analyse tous les matchs, généralement, surtout en sortie de match, sur ce qu'on vient de voir. Mmh. Et quand un coach, en conférence de presse d'après-match, t'ouvre sur la suite, sur ce que lui, il voit de la suite, en fait, ça te fait vrai. C'est là que t'as envie de poser des questions sur le football aussi. Et quand il parle de Eli Wai et qu'il explique que peut-être que sur ce match-là, il aurait marqué plus que Wesley Saïd. Mmh. Qui n'est pas difficile puisqu'il n'a pas marqué. Lui, il sait que peut-être que si Eli Wai avait été titulaire, il n'aurait pas été aussi engagé qu'en étant rentré à la fin du match. Et donc, il voit la suite de la carrière d'Eli Wai et la suite de la saison de Lens.
Les notes de l'équipe du soir, pas tout de suite, mes amis, mais je vous laisse passer un petit message. Ça se passe sur le site L'Équipe. Il y a des joueurs qui vont apparaître. Vous pouvez les noter. Ce sera la note moyenne qui va apparaître dans la rivière au moment où on évoquera ce thème. Greg Schneider, elle a tout dit, votre voisine, vous voulez rajouter quelque chose? Parce qu'à un moment, vous vouliez intervenir. Greg.
Oui, non, parce qu'en fait, mais il ne faut pas se tromper, c'est aussi peut-être un leurre. En fait, c'est parce que lui, comme le Brice, par exemple, ils ont des qualités de pédagogue. C'est-à-dire qu'ils arrivent à expliquer en vulgarisant un peu, sans trop vulgariser.
Parce qu'ils ont été formateurs avant?
Non, je ne sais pas, parce que c'est leur personnalité, parce qu'ils savent le faire. Et c'est pas, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas parce qu'un coach ne sait pas le faire qu'il est moins bon, qu'il est moins intéressant, qu'il est moins honnête. Ce n'est pas parce qu'un coach. C'est un don. Hayes, effectivement, par exemple, c'est ce qu'a dit Raymond, rien ne devient conflictuel, en fait. Il trouve toujours une espèce de résolution douce où tout le monde peut s'asseoir. Et c'est pareil pour Lebris.
C'est un talent, ça.
Pouvez, oui, c'est un talent, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu périphérique. C'est un peu périphérique au talent de coach. Un coach doit bien faire jouer son équipe. Un coach doit gagner des matchs. Il est pas dans sa feuille de route. Tant mieux s'il s'expliquait, mais c'est pas son cœur de métier. Et ce que je voulais dire, c'est que je voulais pas qu'on les juge par rapport à ça. Voilà. Je veux dire, un mec comme Novel, par exemple, à Toulouse, j'ai aucun doute sur le fait que quand il entre Cadio, il est, mais il sait pas le faire comme ça. Ouais. Et c'est pas pour ça que c'est un coach inférieur ou, voilà, je voulais juste, on peut pas les juger sur leurs habiletés médiatiques, ce serait trompeur et ce serait injuste.
Oui, mais l'habileté médiatique, voilà. Est-ce qu'elle est complètement éthérée? Est-ce que finalement, le fait de s'exprimer aussi facilement humaine, face à un journaliste, est-ce que finalement, c'est le même mec? C'est le même mec face aux joueurs,
non. C'est parce que là, c'est des caméras, c'est c'est pas pareil.
Pardon, mais là, Siani,
ça fait partie du boulot déjà. Et tu vois, c'est comme les coachs qui hésitent à nous parler ou qui veulent pas forcément nous parler parce qu'ils estiment qu'on n'a pas la capacité de comprendre ce qu'ils ont à nous expliquer. On a eu ce cas, tu vois, les coachs qui aiment pas trop parler.
Louis Cédric, on va pas se cacher. Voilà,
nous donner des noms.
Voilà, Louis Cédric, par exemple, c'est très simple.
Moi, je trouve que au-delà de nous mépriser un petit peu, tu maîtrises aussi le grand public parce qu'on est un vecteur pour le grand public. Tu vois, tu t'adresses pas aux journalistes, tu t'adresses au grand public. Ça fait partie de ton métier. Faire ce que Franck S fait, moi je trouve ça très intéressant. Mais je fais beaucoup de confs après les matchs. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui sont
les petits, les petits, je vous coupe parce que
ce que je veux dire, c'est pas pour ça que ce sont des coachs inférieurs.
Je vais vous couper parce que là on est en train de faire des analyses de conférences de presse.
Ils ont pris une leçon de Pia, pas de piano, mais une leçon de Pia.
Voilà, bravo, la leçon lilloise. Ce soir, justement, on va revenir au match après cette analyse de communication. Enfin, peut-être pas de la communication d'ailleurs de football. Nous allons passer donc au deuxième thème. Zegrova MVP. Faut-il considérer Eden Zegrova comme une star de notre championnat? Habillage, nouvelle star.
J'aime bien.
Et voter au 33-33, non, je sais plus ce que c'était. Pierre, vous dites quoi? Oui ou non?
Pas du tout.
Oh, du tout, c'est non. Monsieur Schneider?
Bah, plutôt oui.
Plutôt oui. Monsieur Djellit?
Un grand oui.
Un grand oui. Mam Dalma?
Pas encore.
Pas encore.
Ah, pas trop.
Pas mal. Eh ben, écoutez.
Satisfy,
Piqué et Raymond.
Mais c'est pas les mêmes équipes.
Non, c'est pas les mêmes équipes.
C'est pas les mêmes équipes, mais on peut faire le même duel.
Les filles contre les garçons.
Allez.
Jingle, les amis. Ah, faut dire jingle parce que.
Ouais, machin, là.
Oui, ouais, voilà. Il n'aime pas les anglicismes.
Non.
Le jingle, c'est la touche. Ouais, la touche qui est juste à côté du frigo, qui est en bas à gauche. Voilà, merci beaucoup. Merci. Oh, c'est la guerre des fêtes. Oh là là, les filles contre les gars.
Enfin.
Oh là là, bravo.
Ouais,
alors, j'ai deux noms. Qui commence, Pia ou Siani?
Comme tu veux. Je peux commencer si tu veux.
Allez. Vas-y. Siani prendra la main. Greg ou Nabil qui prend la main? Un grand oui. Hein.
Comme tu veux, Greg. Je suis généreux ce soir. Et ouais.
Vas-y.
Ouais, okay. C'est un grand oui. Faut-il considérer Eden Zegrova comme une star de notre championnat? Il a dit un grand oui. C'est Nabil Djellit. Allez-y, l'autoroute est ouverte.
Bah, évidemment que c'est une star de notre championnat. Il est impliqué sur 20 buts cette saison avec Lille, qui est une équipe attractive, une des meilleures équipes du championnat. Avec David, c'est le joueur le plus efficace. Alors c'est sûr, c'est pas une star marketing. Il n'a pas de tatouage. Il n'a pas un passeport funky. Bah, il est kosovar. Ouais, s'il s'appelait les Aigrés Vigneault, on en parlerait probablement autrement et plus vite. Il fait la même saison que Néné avec Monaco à une époque, qui était une star du championnat. C'est un joueur frisson, c'est un joueur différent. C'est un joueur qui a fumé ce soir, entre guillemets, si je puis me permettre cette expression, la défense de Lille comme d'autres dans le championnat de France. Bravo Zegrova.
Il a fumé la défense de Lens parce qu'il n'a pas joué contre ses combats. Lui, pas très grave. Siani, c'est pour l'instant non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il manque?
Je sais qu'on est un peu triste de voir Kylian Mbappé quitter le championnat et qu'on a besoin de stars pour le remplacer, mais pour moi, c'est pas encore une star. Quelqu'un qui est connu dans le monde entier, quelqu'un qui fait briller la Ligue 1, c'est un très bon joueur, il a du talent, on l'a vu encore ce soir. Il est capable de belles performances, de coups d'éclat, mais il m'en faut un petit peu plus. Et surtout, il faut encore peut-être une ou deux saisons où il va marcher sur le championnat de France. C'est bien d'être impliqué sur 20 buts cette saison, mais bon, il est quoi, à 11 buts en Ligue 1? Il en est à combien, Kylian Mbappé? Moi, pour être une vraie star, il faut être dans ces dimensions stratosphériques.
11 buts, toutes compétitions confondues, c'est 5 buts en Ligue 1. 5 ou 6 d'ailleurs, on va me le dire. La rétine a été brûlée, celle de Grégory Schneider, c'est 5 buts, Zegrova. Grégory, pour vous, oui, pourquoi?
S'il faut être Mbappé pour être une star, il n'y en a qu'une.
Hein. Ouais,
dans une seconde. C'est une équipe un peu terne, c'est une équipe qui a des capacités de d'intensité, de combat, de discipline. Et je trouve que lui change beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est quelque part, c'est un peu le facteur électrique. C'est quand même celui qui injecte une énergie différente. C'est comme lui, peut-être le gardien est un peu aussi comme ça. C'est-à-dire que c'est un peu c'est un peu le joueur frisson. C'est celui, quand il prend le ballon, se demande ce qui va se passer. Et il transfigure l'équipe, il l'amène un peu plus haut. Donc pour moi, oui, c'est une star.
Pierre Clément, pour conclure ce super duel.
Bah, pour moi, les mots ont un sens. Joueur frisson, oui. Joueur frisson, c'est une réalité. Joueur efficace, oui. Joueur qui donne du relief au championnat, oui. Star, non. Parce que pour moi, star, je rejoins ce que tu disais, Nabil, et je retourne l'argument. Pour moi, une star, c'est quelqu'un qui vend beaucoup de maillots. C'est quelqu'un que ma mère connaît. Je peux te dire que Zegrova, elle a aucune idée de qui c'est. Mais vraiment, et en fait, pour moi, il est très, 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 très loin d'être une star. Et pour moi, aujourd'hui, dans le championnat français, il y a une seule star, effectivement, c'est Kylian Mbappé.
On va tout de suite appeler. Ah, vous avez fini ou pas?
Mais il me reste une seconde. Elle connaît Dembélé, t'as
vraiment? Non, il vous reste rien du tout. Vous allez être 40 heures. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Une seconde d'avance.
Il a mis un but.
Dembélé n'est pas une star.
Merci beaucoup, Nabil. C'est une faute. Là, c'est une faute vraiment d'anti-jeu. Une faute grave, une faute grossière.
Moi, j'en ai pas avec des arguments côte à l'Argus.
Par contre, ma mère te connaît.
Et c'est quoi une star?
Dans quelques minutes, vous aurez ma mère, Marie-Claire Ménard, en direct. Connaissez-vous Edan Zegrova? Voilà. Voilà.
Je peux l'appeler si vous voulez, on vérifie.
Voilà. Marie-Claire, tiens-toi prête. Faut-il considérer Edan Zegrova comme une star de notre championnat? Il y a des oui, il y a des non. Et président, vous nous dites quoi?
Ben, les arguments sont bons de deux côtés.
Ça ferraille. Hein.
C'est deux niveaux différents. Si on parle de... C'est une star, c'est quoi? Une star, c'est quelqu'un qui est connu dans tous les foyers, qui est reconnu dans la rue, qu'on connaît. Si une star, c'est ça, oui, Zegrova n'est pas une star. Mais si on dit... Dans notre championnat français, les gens qui connaissent le football, qui regardent le football, dans cette équipe de Lille, il amène quelque chose qui fait qu'il a un côté différent. Mais est-ce que différent, c'est être une star?
Ça commence là.
La star, c'est Jonathan David.
Je pense, c'est un coup là sur une période et il manque encore de durée pour moi, pour être une star.
Attendez, Raymond, donc, c'est le point pour les filles.
Donc je donnerai le point aux filles.
Nabilou.
C'est pas une star encore.
La régie sur du placard,
la régie machin. Qu'est-ce qu'on dit quand on est face à un président? On demande.
Bonsoir, monsieur le président.
On demande
audience.
Audience. Alors attendez, est-ce que l'audience est ouverte ou pas?
On lui accorde?
Allez. Président,
aujourd'hui, je suis confraternel.
Oui, vous êtes royal, magnanime.
Non, mais je reviens sur mon argument. Ousmane Dembélé, c'est une star ou pas?
Mais oui, non, mais oui. Beaucoup plus que Zegrova.
Est-ce que c'est une star de la Ligue 1?
Plus.
Oui. Déjà, plus, c'est une star de foot.
Déjà, il joue à Paris.
D'accord.
Donc, il est déjà dans la catégorie.
En fait, si je puis me permettre, ce n'est qu'une définition d'image.
Oui.
Puisque, en termes de statistiques et d'impact sur son équipe, Zegrova est bien au-dessus. Et en plus, je rajouterai quelque chose qui est important. Je me demande si c'est pas le meilleur dribbleur de Ligue 1. C'est un joueur spectaculaire. C'est un joueur spectaculaire. Et ça, c'est le regard un peu désillusionné des gens qui ont perdu la flamme. Moi, à 14-13 ans, quand j'allais au stade, honnêtement, ça, c'est un joueur pour qui j'aurais eu les yeux doux. Parce que dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Et ben, chacun sa définition de star. Comment? Moi, une star, c'est quelqu'un qui me touche émotionnellement dans sa manière de jouer.
Non, pas dans sa manière de vendre des maillots.
J'en ai rien à cirer.
C'est un artiste.
L'argument.
Mais tu comprends, c'est un artiste.
Tu as raison sur ta définition.
J'ai raison.
Sur ta définition.
Ben Arfa.
Mais le mot star, je veux dire, c'est pas ça.
Alors attendez, je vais aller voir Grégory Schneider, qui a dit que Zegrova, c'est une star du championnat. Mais je vais me servir un petit peu des arguments des filles.
Allez,
Zegrova, moi j'ai rarement vu, je ne sais pas, je ne lis pas tout, mais je l'ai rarement lu ou vu en interview.
Et ben, c'est pour ça que c'est assez intriguant. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il ne pousse pas trop le club en interview? C'est parce qu'il ferait un massacre. C'est parce qu'au bout de deux questions, il t'expliquerait qu'il faut qu'il soit ballon d'or, la première question. La deuxième
question. C'est bien d'avoir du caractère, non?
Justement, ce que j'essayais de dire. La deuxième question, il t'expliquerait qu'il ne comprend pas pourquoi il n'est pas déjà ballon d'or. Enfin, il est un peu...
C'est de la graine de star,
oui,
ça.
Non, mais il est un peu euphorisant, il est un peu différent, il est un peu.
Il assume son immodestie.
Tout à fait. Et alors, ils ont vraiment ramé pour le laisser pour le contenir dans des proportions collectives à peu près. Mais il a une personnalité à part, il est rigolo.
Il peut devenir une star alors.
En tout cas, il se voit tous les matins quand il se regarde dans le soleil. Attends, se lève pour lui en fait.
Tanguy Le Sévillier. Les mots de Zegrova en interview. On a un truc. Ah.
C'était du côté de Prime Video. Je sais que ce match signifie pour nos supporters, ce que ce match signifie pour nos supporters. On devait gagner ce match. Le premier but, on l'avait travaillé à l'entraînement. La passe de Nabil Bentaleb est magnifique. Je suis très fier. Le deuxième, c'est plus un but de numéro 9.
Aucune nouvelle du Ballon d'Or 2024, là. Il n'y a pas un truc, une déclaration sur.
Attendez, mais je vais poser une question au président.
Une deuxième audience.
Oui, parce qu'il a dit que c'était intéressant les arguments. Je voudrais lui poser une question. Je vous sollicite une audience.
Je vous l'accorde.
Alors, je sais qu'on peut devenir une superstar en étant libérien et gagner un ballon d'or. Oui. Maintenant, s'il est brésilien, est-ce qu'on en parle autrement ? Ou s'il est argentin ?
Zlatan, il est
non, mais je pose la question au président.
Non, je suis d'accord, il aurait été brésilien à Lille. Comme ça, il serait pas plus une star. Il ferait partie des autres, comme les joueurs de Lille, qui sont des bons joueurs, mais qui ne sont pas des stars.
Il a un potentiel.
Dans l'imaginaire, c'est le mot star. Il y a d'autres croyances dans l'imaginaire.
Tu bloques sur le mot star. Une star, c'est autre chose.
Personne n'a dit que c'était mieux d'être une star. C'est mieux d'être un joueur frisson quand on est fan de foot. Moi, je préfère largement avoir un joueur frisson dans mon équipe qu'une star. C'est chiant d'avoir une star. Non, mais
c'est chiant d'avoir Mbappé dans son équipe.
Non, j'adore avoir Mbappé.
Je pense que les supporters du PSG étaient contents d'avoir Messi.
De la Ligue 1.
Neymar dans l'équipe, quand même.
Tu peux en enlever un sur les deux, à mon avis.
Ah, lequel ?
Messi.
Ah, on va...
Je vais pas parler pour tout le monde, mais...
J'avais vu un... Dans ma vie professionnelle, j'avais vu un directeur de casting et je vais poser cette question-là. Je lui dis, c'est quoi une star ? Et il me dit, tu mets 8 personnes dans le plan, on regarde... cette personne-là.
Voilà.
On en parlait, je me suis dit, est-ce que vous avez des exemples sur le sport et tout ? Et il dit, par exemple, tu mets 6 personnes dans une pièce, dont Laure Manaudou. Tu ne sais pas que tu regardes leur Manaudou. Est-ce qu'ils dégagent ça? Je pense que Lucas Chevalier dégage un peu ça, par exemple, chez eux.
Vous êtes en train de quitter votre partenaire.
Tu fais semblant, tu sais, c'est comme quand tu vas au musée, tu fais semblant ce tableau, il est mieux que les autres.
Enfin, on a compris.
Ça veut dire que quand tu sors du match, parce qu'il faut adapter ça au match, quand tu sors du match, de qui tu te souviens? Même s'il ne met pas ses buts, il y a quelque chose qui reste dans la rétine avec ce mec. Même s'il ne met pas ses buts. Donc, quelque part, il y a une essence différente.
On tourne à Lille, mes amis, parce que Paulo Fonseca était en conférence de presse il y a quelques minutes, a parlé de l'homme du match, Edon Zegrova. Écoutez-le.
Edon a été décisif offensivement. Il a fait les deux buts. Mais je pense qu'il peut faire meilleur défensivement. Mais il était décisif.
Mbappé, quoi. Ouais, il est comme Mbappé, il peut faire mieux défensivement, donc c'est une star.
Donc, avec Mbappé.
Il a donné
l'argument.
Da Fonseca, il travaille la suite dans son commentaire aussi.
Da Fonseca.
C'est Omar. Il est en train de travailler pour la suite. Il a marqué deux buts et au lieu de l'encenser, il dit ouais, mais il pourrait mieux défendre. Il pourrait mieux défendre.
Meilleur joueur de Ligue 1, vous avez raison, Nabil.
Ouais, mais il vient de donner un élément qui nous explique que c'est une star. Le meilleur argument, c'est Fonseca qui
défend pas.
Mais il défend, il a un comportement comme ça. Bah, il défend pas, il vient de le dire.
Raymond, vous avez une liste très entraîneur. Mais franchement, ce type de joueur frisson, le jour où il défendra.
Non, mais il défendra jamais.
Hein, on est d'accord.
Il défendra jamais.
Sinon il sort.
C'est à Manchester, il est à Lille.
Oui.
Voilà. Oui. Donc il jouera.
Il a 27 ans, non ?
Il jouera.
Il a 27 ans ?
J'ai pas son âge en tête, mais on va me le confirmer. C'est 24 ans.
Je pose la question pour.
Il fait plus vieux que son âge, donc ça peut pas.
Non, mais pour avoir une projection sur la suite, c'est intéressant. C'est une valeur marchande pour.
Ah non.
Pour Lille, je sais pas combien de temps de contrat il lui reste. Moi, j'espère qu'il quittera pas la Ligue 1, quoi, tout simplement.
On va perdre une star.
Non, mais lui, il va au Vélodrome, c'est une star.
Fin de contrat 2026. Une particularité ce soir, c'est son premier but du pied droit, le deuxième de sa carrière. Il en a marqué 33 en tout et pour tout. Donc, c'est son premier but du pied droit. Et puis, il a quand même la particularité, ce Zegrova, là, de marquer des bons buts. Des buts, on va dire, frissons, des buts qui font lever les stades. Sur l'ouverture du score ce soir, Greg, je sais qu'on a regardé le match ensemble, mais on s'est un peu engueulé. Pour moi, c'est à la fois Bentaleb et à la fois le contrôle de Zegrova. Et vous me dites, il y a un peu 50-50 avec Samba. Donnez-nous votre lecture, s'il vous plaît.
En fait, il m'a semblé que Brice Samba, pour laquelle j'ai beaucoup de. Qui est le gardien le plus décisif de Ligue 1, hein, si on regarde les statistiques, donc on va poser ça. Mais là, il a le réflexe du scaphandrier, quand même. C'est-à-dire que la balle est quand même à côté de son pied, il décroise pas beaucoup. Et la balle est quand même là. Alors il est pris dans le replacement, je veux bien, mais il tombe comme un bilibule. Enfin, moi ça m'a un peu posé souci la réaction.
C'est pas plutôt la défense là
qui va dire c'est la défense, c'est Ben Taleb. Samba est pas blanc bleu. Point. Après ça peut être mille choses.
Sur sa position, tu dis il tombe sur les fesses, et c'est vrai parce qu'il est en train d'anticiper sur le ballon enroulé côté ouvert, au moment où il est en train de partir, ouais, il se rend compte qu'il est battu et il tombe en arrière.
Ouais, voilà.
Parce qu'il est déjà, lui, dans son schéma, il va l'enrouler.
Ouais.
Il va l'enrouler et c'est ce qui le trompe.
Je m'attendais à tout sauf à Samba incriminé sur ce but.
Giovanni, on a Zegrova ce soir. On n'a pas les raquettes, on fera un petit tour.
On peut faire un
tour. Giovanni, vous lui mettez combien à Zegrova par rapport à Samba? Ce que vous avez vu, à vous de jouer.
Non, mais c'est pas grave.
Déjà, sachez que j'ai beaucoup aimé le débat sur ce qu'est une star ou non. Franchement, j'ai pris une leçon de directeur de casting de la part de Grégory Schneider. Ça m'a mis les frissons. Non, je lui mettrais 8. Honnêtement, il met un doublé dans un derby capital. C'est lui qui apporte évidemment du danger. Il a eu parfois, et je l'ai vu dans le passé, ce vilain défaut qu'ont les joueurs habiles techniquement et qui aiment dribbler à garder trop souvent. Là, il a libéré un nombre de fois incalculable dans le bon tempo. Et ça, c'est appréciable parce que ça veut dire qu'il progresse. Donc non, c'est clairement le type de joueur que tu payes pour voir au stade. Même façon, cette équipe de Lille, elle est merveilleuse. C'était un match d'une très bonne intensité. Lille a été bon. J'oublie pas Ben Taleb, mais c'est vrai que Zegrova, ce soir, on ne voyait que lui pour reprendre les critères de Greg Schneider sur la pièce, etc. Ce qui reste ce soir, si on doit retenir le comportement, l'attitude de quelqu'un, c'est Zegrova, au-delà de son talent. Ça a été la star de la rencontre.
Et on commence à éteindre les lumières du côté de Lille. Vous allez vous faire virer, Giovanni. On vous embrasse. Bonne soirée lilloise.
Attention à l'île de la tentation.
Je rentre à Paris.
Ah, ok. Ah. Allez, à bientôt. Salut, Joe. On vous embrasse.
Tout le monde.
Notons Facundo Medina, s'il vous plaît. Le Facundo. Moi, j'ai une question précise à vous poser sur Facundo.
Comment dire ?
Il ne doit pas terminer le match, normalement, les mecs. Attendez.
Il y a le carton rouge
qui est récupéré par l'Avar. Bravo, l'Avar. On n'aura pas de débat sur l'Avar lundi, en tout cas pas pour ce premier match. Mais après, il met un turbin en mettant un bon coup de pied dans le ballon qui touche le bas-vent de Thiago Santos.
Oh, il dégage le ballon.
Et
l'autre, il se met dans la trajectoire.
On a compris, très l'esprit quand même. Non, mais... Et là, en fait, Willy Delajo, il ne corrige pas, il avertit un Lensois,
il est sauvé par Wai.
Ouais.
Parce que s'il n'y a pas Wai qui vient pour mettre le feu avec Ben Taleb, Ben Taleb ne fait rien, hein, il vient juste là. Et l'arbitre est sauvé par ça, parce que comme ça, il met un carton à Wai et il ne le met pas à
Medina.
Parce que s'il se passe rien, il est obligé de le mettre à Medina et de l'expulser.
Vous avez mis 6 à Medina?
Oui, parce que moi, j'ai mis.
D'accord, ok. 5, 4.
Et parce que c'est quand même lui. Vous oubliez quand même que c'est lui qui relance le match. Parce que la récupération au milieu de terrain, la passe décisive, c'est lui qui l'a fait. Et voilà.
Je reste à 4.
Et que c'est pas lui qui est responsable sur le premier but, c'est le latéral gauche qui a oublié là-bas, qui est parti à l'abordage.
Chavez, je lui mets l'inverse.
Okay. Il est censé quand même le patron quand même. C'est le meilleur défenseur. J'ai trouvé qu'il est en retard.
Il est en retard parce que l'autre l'a lâché. Il revient au dernier moment. Mais il n'a pas le temps de changer.
Mais sur les qualités de combat, sur ce qu'il doit pousser, parce que d'habitude c'est quand même le mec qui va en chef. J'ai trouvé moins.
Attention, notez Brice Samba maintenant. Notez Brice Samba. C'est la note express. On va envoyer la pub dans quelques secondes.
Et le Mont 5.
Je suis pas d'accord.
Un sauvetage sur un défenseur central face à Ralsson qui était fantastique, mais. 5, 5, 5, 7 et 7. Pierre, il y a la main. Ouais, comme Raymond.
C'est suffisant.
Mais petit, dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir, dimanche, c'est classico. Il y aura deux thèmes. Un côté Marseille, un côté Paris Saint-Germain. Avec encore un thème Mbappé. Peut-être. A tout de suite.
Une star.
Ok.
Il n'est pas minuit, mais le minuit info est déclaré dans quelques minutes, 58, 59. On ne peut pas évidemment encore utiliser les images. Petit message à la régie. Donc, ce match de Lille-Lens, on va découvrir les images un petit peu plus tard. On est d'accord en régie, Jacouille ?
merde.
Ouais. On s'est compris. On peut prendre un petit peu de temps. Samy Dalma est dans la place. Pia lui fait face. Grégory Schneider, Nabil Djellit, le président, c'est Raymond Domenech. D'ailleurs, je suis désolé, la régie, hein, mais je crois qu'on a eu un super duel là sur Zegrova parce que la discussion a continué pour la pause publicitaire. Est-ce qu'on doit le considérer comme une star de notre championnat, Eden Zegrova? Est-ce que vous avez éventuellement le résultat? Si c'est oui,
on s'est bien battu.
Eh ben voilà. Ce sont les femmes qui gagnent ce soir dans
l'équipe de France.
Comment ?
Et tant mieux.
Non. Donc on perd un super duel, on a les boules.
Ne sois pas condescendant.
Je suis pas un peu le seul, un peu.
Je suis content, j'aurais voté pour vous d'ailleurs.
D'accord, très bien, merci beaucoup. Les deux scrutins ont retenti, Tanguy Le Sévillier. Il est l'heure, monseigneur, de nous parler du derby du Nord, remporté par Lille ce soir contre Lens.
Avec un très bon Eden Zegrova, l'homme du match côté lillois. C'est lui qui va ouvrir le score sur cette magnifique transversale de Nabil Bentaleb. Le contrôle l'est tout autant. Et derrière, la frappe au premier poteau qui trompe Brice Samba. On le revoit au ralenti, ce contrôle qui ne quitte pas le pied gauche de Zegrova. Ça fait mouche 1-0 pour les Lillois. On va le retrouver, Zegrova, sur ce deuxième but. Là, c'est Gudmundsson qui s'offre un magnifique grand pont sur Frankowski. La frappe, elle est repoussée par Samba, mais elle revient sur Zegrova qui s'offre un doublé dans ce derby du Nord. Les Lensois vont y croire, vont revenir dans cette partie grâce à Eli Wahi. Ouais. Mais ça ne suffira pas. Défaite des Lensois. Lille est troisième et revient à un point de Brest qui est deuxième et qui joue de dimanche face à Lorient.
T'es pas sûr de votre info là, non ?
Non. Lorient-Brest en tout cas.
Le week-end.
Benfica à présent, voilà. Adversaire de l'OM en Ligue Europa, jouait ce soir contre Chaves. Succès 1-0, mais l'histoire du match est bien différente, vous allez nous l'expliquer.
Alors. Oui, une soirée compliquée, une histoire de pénalty pour Benfica ce soir, futur adversaire de l'OM. On voit le premier frappé et surtout raté par André Di Maria. L'arrêt d'Hugo Souza. Derrière, un autre tir au but repoussé une nouvelle fois par Hugo Souza. On va devoir le retirer. C'est Arthur Cabral là qui s'est fait avoir. Mais trop de joueurs sont entrés dans la surface. Il retente sa chance. Et c'est de nouveau arrêté par le portier de Chaves.
Il va avoir des offres, lui.
Les joueurs de Lisbonne vont finalement s'imposer grâce à cette tête de João Neves. La victoire 1-0 pour les Aigles qui affronteront donc Marseille en Ligue Europa.
Deux beaux buts ce soir. L'un en Liga, l'autre en Angleterre, en Championship. Vous commencez par le championnat que vous voulez. C'est vous qui menez les débats.
Eh ben, on va prendre la direction de l'Angleterre avec ce match nul, 2-2 entre Watford et Leeds. Et ce sont les joueurs de Leeds que l'on va montrer avec Crescencio Somerville qui enroule parfaitement pour le but du 1-1.
Quel star.
C'est Zegrova.
C'est le néerlandais. 16e but de la saison. C'est le meilleur buteur de Leeds. Et on va vous montrer également ce but de Cadix en Liga. Victoire 1-0 dans le derby.
Oh oui. Oh oui.
C'est signé Robert Navarro, un joueur passé par l'AS Monaco. C'est le seul but du match. Victoire de Cadix 1-0.
Navarro, j'écoute. Et Xabi Alonso restera au Bayern Leverkusen la semaine prochaine. C'est donc officiel.
Oui, il était suivi avec insistance par Liverpool et par le Bayern Munich. Xabi Alonso a décidé de poursuivre sa mission avec Leverkusen, qu'il est en train de mener au titre de champion d'Allemagne. Ce serait une première. On l'écoute.
J'ai utilisé la trêve internationale pour réfléchir à mon avenir et prendre une décision. J'ai eu une très bonne rencontre avec le Bayer Leverkusen la semaine passée. Je les ai informés que je resterai et je continuerai au club. C'est l'endroit idéal pour moi pour me développer en tant que coach.
Greg Schneider, commentaire.
Hallucinant. Ça contredit tout ce que je connaissais des coachs et des plans de carrière qu'ont les coachs. Parce que là, en fait, il y avait le premier marché à portée de main. C'était Liverpool, c'était Bayern. Et quand vous rentrez dans le premier marché, vous n'en sortez plus avant longtemps. Vous avez une cartouche, deux cartouches. Et en fait, alors que ça s'est ouvert, il a préféré, il a dit se développer en tant que coach. C'est-à-dire qu'il sent qu'il lui manque des choses. Il sent que c'est, voilà. Ça, c'est quand même, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est à remarquer.
Le PSG veut quitter le Parc des Princes. Nouvel épisode aujourd'hui.
Oui, le PSG se cherche un terrain pour bâtir un nouveau stade. Selon le Parisien, le club de la capitale a ainsi transmis une lettre au patron de la commission d'enquête du schéma directeur de la région Île-de-France afin d'officialiser cette volonté. C'est Victoriano Molero, le secrétaire général du PSG, qui a signé cette lettre. Le club recherche un terrain à 20 km autour de la capitale. Plusieurs villes, vous les voyez sur cette image, sont intéressées, parmi elles Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines ou un petit peu plus au nord de Paris, Aulnay-sous-Bois ou Gonesse.
Le PSG quittant le Parc des Princes, c'est toujours du bluff, Pia Clément.
Ah. Ça n'a jamais été du bluff pour moi. Pour moi, c'est un projet de très longue date.
Ah ouais.
C'est presque peut-être un des projets initiaux de QSI à Paris.
Oh.
Bien sûr. Et ils ont eu l'intelligence de tout mettre en place, de paver le chemin année après année et d'arriver à un stade où ils font croire que la faute repose sur la mairie de Paris, alors qu'en fait, c'est leur choix. Parce qu'ils pourraient très bien continuer au Parc des Princes. Ils gagneront plus s'ils partent ailleurs. Mais ça, c'est leur problème, c'est pas celui des supporters. Et pour moi, c'est déraciner le club, c'est enlever aussi la substance même de la marque qu'ils ont eux-mêmes développée à l'international. Je vais juste faire une petite parenthèse sur une capsule marketing qu'ils ont sortie à 2 jours du match contre l'OM. Ils ont sorti une collab pour des fringues avec une marque de Los Angeles qui s'appelle Born and Raised, c'est-à-dire né et élevé ici. Et en fait, cette marque, elle représente l'inverse de ce qu'ils sont en train de faire en essayant de partir du Parc des Princes. C'est une marque qui a été créée par 2 mecs de Los Angeles qui, en fait, en avaient marre de voir la gentrification et de voir des gens extérieurs à Los Angeles venir s'installer. Et du coup, les gens natifs qui étaient dans le quartier de Venice devoir partir de la ville. Et en fait, ils ont créé cette marque pour ça, pour dire il y a des gens qui sont nés ici, qui ont envie de rester vivre ici. Et là, ils sortent une capsule à 2 jours du match au MPSG avec cette marque. Au moment où on apprend que ça y est, ils ont lancé leur lettre et qu'ils veulent partir du parc. Donc pour moi, il y a 2 trucs. Il y a les financiers qui veulent gagner encore plus d'argent, avoir un stade qui rapporte encore plus. Et après, tu vas avoir les gens, tu as les supporters aussi. Et puis après, tu vas avoir les gens qui gèrent la marque Paris Saint-Germain, qui eux vont se dire, mais vous êtes gentils les gars, mais si on n'a plus le rouge et bleu, on n'a plus la Tour Eiffel, on n'a plus Paris pour s'adosser, pour adosser notre marque, on fait quoi en fait?
Okay.
Donc je trouve que c'est confusant et moi j'ai du mal à suivre.
Moi j'ai une remarque à faire,
oui.
Elle est très rapide. Je n'ai pas d'éléments probants, je n'ai pas d'informations, mais ça parle de projection pour un stade en 2040, c'est
ça ? Oui, 2040.
Ouais. Ok, bon, 2040, c'est demain sans être demain.
Oui.
Je pense que c'est toujours du bluff. Je pense que laisser transpirer aussi le fait qu'on ait envoyé une lettre, c'est aussi pour nous faire parler et remettre encore un peu la pression sur la mairie. J'en parlais tout à l'heure avec Siani. Je crois que les élections municipales, c'est dans combien de temps ? C'est dans 2 ans ?
Oui.
Ok, si ça change...
Oui.
Si la mairie change d'obédience ou de camp, je ne sais pas si c'est Rachida Dati ou quelqu'un d'autre, à ce moment-là, si c'est toujours la même, le même retour, je penserai moins au bluff. C'est comme ça que je le lis.
On attend 2 ans. On attend
les élections. C'est comme ça que je le lis, oui. Je dis peut-être n'importe quoi. Je dis peut-être n'importe quoi, mais c'est comme ça que je le lis.
Pour le Stade de France, ce n'était pas du bluff. Il y a vraiment eu un dossier qui a été préparé par des gens très sérieux qui ont été engagés pour ça.
Mais pas envoyé.
Pas envoyé, mais il y a vraiment eu un... Oui, parce qu'ils ont étudié le truc et finalement, ils ont choisi de ne pas le faire. Mais je veux dire qu'ils ont vraiment engagé des équipes pour faire des recherches. Non,
c'est juste Raymond Domenech, votre nom a été prononcé aujourd'hui en conférence de presse.
Aïe.
Tanguy.
Du côté du FC Nantes, c'est Antoine Comboiré qui est de retour évidemment chez les Canaris. C'est un nouveau départ pour l'entraîneur français qui avait déjà dû jouer les sauveurs du FC Nantes en 2021. Il s'en souvient et évidemment il espère le même résultat à l'issue de cette saison.
Vous avez l'impression qu'il y a plus de vent contraire que quand vous êtes arrivé
Non. Quand j'étais venu, moi, avec... Quitte à Circus, Domenech, et c'était chaud les mecs. Hein.
Voilà, c'était chaud. Ouais. Vraiment, c'est pas très confraternel ça.
C'est pas très confraternel. c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je rappelle juste que cette année-là, il s'est sauvé au barrage.
Oui,
ils n'ont pas fait mieux contre Toulouse et qu'à 5 minutes de la fin, l'arbitre doit siffler un pénalty qu'il n'a pas sifflé pour Toulouse et qu'il serait descendu de la même manière. Donc je lui souhaite quand même bon vent, courage et j'espère que Nantes s'en sortira. Mais je trouve c'est dommage pour lui.
Ok. Bastia Perrin-Pont au classement, c'est officiel.
Ouais, c'est le CNOSF qui a confirmé la décision de la commission de discipline, une décision qui avait été prise le 17 janvier dernier. Cela fait suite à des insultes racistes proférées lors du match face à Quevilly-Rouen à la mi-décembre. Le CNOSF reproche au club corse de ne pas avoir suffisamment pris la mesure des incidents. À noter que l'auteur des insultes à caractère raciste n'a toujours pas été identifié. Au classement, Bastia a désormais 33 points à égalité avec Concarneau, le premier relégable. Et au niveau des actions antiracistes, il y a le maillot du Paris Saint-Germain qui est à faire gagner. Ouais. Tous les maillots ce week-end seront décorés avec ce nouveau badge et ce sera à faire gagner en fin d'émission.
Ok, c'est très bien. On connaît le maillot du parc mais on pourrait voir parce que c'est floqué tout ça pour pas voir la pub, mais bon, on
je suis peut-être un peu naïf, mais C'est quand même une décision assez forte, ouais, qui fait jurisprudence. Et j'espère que, enfin, que ça se reproduira, si ça doit se reproduire ailleurs aussi. Okay. C'est pas que Bastia qui serve d'exemple.
Oui, bah, Nabil, à un moment.
Non, mais je dis que c'est bien.
Oui, non, mais.
Je dis que c'est bien.
Maillot à faire gagner, hein, ce soir. Maillot.
Attends, il y a Sienne qui est pas d'accord.
Non, mais si, ah, mais c'est juste qu'il faut pas déresponsabiliser Bastia.
Non, surtout, je pense qu'il faut pas, il faut pas sous-estimer le travail qui est fait par la Ligue sur toutes ces questions contre le racisme, contre l'homophobie. Et je trouve que ce qui est fait, eh bien, la campagne est extraordinaire parce que c'est barré, c'est vraiment contre quelque chose.
Moi, quand même, je vous réinvite à lire un article.
Oui,
un
je l'ai lu aussi, c'est pour ça que je le précise.
Un reportage dans l'Équipe où toutes les actions judiciaires étaient complètement freinées, ne débouchaient sur rien. Sur les actes racistes, notamment les
c'est un bon article.
Voilà, c'était un très bon article il y a quelques semaines dans les colonnes de l'Équipe.
C'est compliqué quand même de dire que les instances du foot, nationales et internationales, font assez contre le racisme.
Non, assez, c'est compliqué. Ça veut dire quoi? Où on met la marge? Mais on peut pas reprocher aux instances de faire des choses. À la Fédé, ça se passe à tous les niveaux, il y a du travail qui est fait. On souligne les manquements, mais on souligne pas tout le travail qui est fait. Je trouve que c'est dommage, on devrait regarder un petit peu ce que fait la Ligue et ce que fait la Fédé, mais on lutte contre quand même des quelque chose de très fort autour de nous. Et
ils ont reculé, l'homophobie. Ils ont reculé quand même.
Ils n'ont pas reculé, ils l'ont fait différemment. Ils l'ont fait différemment.
C'est un aveu de faiblesse pour
moi. Ils ont fait en deux étapes. Ils ont fait le même truc contre le racisme et contre l'homophobie. C'est deux discriminations identiques. On ne peut pas les différencier pour moi. Et le travail est fait de la même manière des deux côtés et il est bien fait.
La visite qui fait plaisir aujourd'hui à Bordeaux, celle d'Albert Ellis qui a revu ses copains qui étaient en train de s'entraîner.
Oui, on se souvient que l'attaquant des Girondins avait subi un énorme traumatisme crânien. C'était lors du match face à Guingamp il y a plus d'un mois. Il est enfin revenu au Haillan, on le voit sur ces images. Il a salué ses partenaires. Aucune date de retour n'est prévue pour le Hondurien. Ses coéquipiers tenteront ce samedi de lui offrir la victoire face au Paris FC. Ce sera à 19h et ce sera sur la chaîne L'Équipe, bien évidemment.
C'est les images du jour, là, ou c'est les images d'archives, là?
Du jour.
Ah, ok,
super.
Très bien.
Oui, il va super bien.
Hein. Et basket Eurocoupe, Paris en finale, Bourg-en-Bresse patiente, c'est bien ça?
C'est tout à fait ça. Bourg-en-Bresse devra passer par un match 3, puisque les Bressans se sont inclinés en Turquie face à Beşiktaş. Une défaite 82-71. Il faudra un match décisif. Ce sera mercredi prochain à l'Equinox pour voir si Bourg-en-Bresse rejoint le Paris Basket en finale, puisque le Paris Basket s'est qualifié pour la finale de l'Eurocoupe grâce à sa victoire à Londres ce soir face aux Lions. Un succès 93-85. C'est TJ Shorts qui a été le meilleur marqueur de la partie avec 21 points inscrits. C'est la première finale de Coupe d'Europe pour le Paris Basket. Oh là là. Le Paris Basket qu'on retrouvera dimanche à 19h sur la chaîne L'Équipe pour un derby face à Nanterre.
On a les droits. Placez la petite promo là.
Bien sûr.
Très bien. Nicolas Karabatic, porte-drapeau JO de Paris. Kara n'est pas candidat.
Ouais, c'est dans le Parisien qu'il a effectivement détaillé tout ça sur le fait qu'il a été cité parmi les possibles candidats. Mais ce ne sera pas lui. Moi, ce dont j'ai toujours rêvé depuis petit, c'est de porter le maillot de l'équipe de France, d'aller aux Jeux Olympiques et de gagner une médaille. J'en ai gagné 4. Ça a toujours été ça, mon moteur, faire briller mon sport. Franchement, je ne me casse pas la tête avec ça. Je suis heureux que certaines personnes aient pensé à moi. Mais je ne serai pas porte-drapeau et ce n'est pas un problème pour moi. Je n'ai pas envie d'user du temps qu'on me demande, mon envie sur tout et n'importe quoi pour lui. Florent Manonou et Renaud Lavillenie font partie des favoris. Une dernière information le concernant. Pour son dernier match avec le PSG le 31 mai prochain, le PSG sera opposé à Aix-en-Provence et ce sera à l'Accord Arena.
Ouais, ok. Miami, il n'y a pas eu match ce soir entre Sinner et Medvedev puisque l'Italie a corrigé le russe.
Hein, 69 minutes de jeu, un succès impressionnant de la part de l'Italien. 6-1, 6-2 contre le numéro 4 mondial. C'était la revanche de la dernière finale à Miami, où le russe s'était imposé. S'il l'emporte en finale, Yannick Sinner remportera son troisième titre de la saison et deviendra par la même occasion le numéro 2 mondial derrière Novak Djokovic. Il attend son adversaire en finale, ce sera soit Zverev, soit Dimitrov.
Tennis de table, vous allez nous donner des nouvelles de nos deux Français en Corée du Sud, à Incheon précisément. Simon Gauzy et Félix Lebrun.
Oui, Alexis Lebrun, lui, a été éliminé un petit peu plus tôt dans la journée. Félix Lebrun, s'en est parfaitement sorti. Victoire expéditive, 3-7-0 en 16 minutes face à l'Allemand Dimitri Ovtcharov, ancien numéro 1 mondial. Au prochain tour, il défiera celui qui a battu son grand frère, le Brésilien Hugo Calderano. Enfin, la belle semaine se poursuit aussi pour Simon Gauzy. Victoire 3-7-1 contre Sang Souli. Vous allez voir le point du match. Le revers, hop là, c'est claqué. En quart, ça devrait être un petit peu plus compliqué puisqu'il sera opposé au numéro 3 mondial, le chinois Jin Kun Liang.
Ce qui est important de le souligner, c'est que les images ne sont pas accélérées. Hein.
Alors, bien sûr.
Comme nous, mais un peu plus rapide. Merci beaucoup. Merci Tanguy. OM Paris Saint-Germain dimanche, c'est l'affiche de la 27e journée de Ligue 1, une affiche déséquilibrée si l'on jette un coup d'œil au classement, puisqu'entre le Paris Saint-Germain et l'OM, il y a 20 points de différence. L'autre sujet, on va dire, préoccupant, d'inquiétude, pour, en tout cas pour l'OM, ce sont les blessés. Jean-Louis Gasset a annoncé aujourd'hui 4 forfaits. Jonathan Clauss, Babo Meïté, Jean Onana et Ismaël Essar. Des absences qui s'ajoutent à celles des absences longue durée de Valentin Rongier et d'Amir Bourriaud. 4 joueurs sont incertains. Samuel Gigot et Ulysses Gara, eux, étaient bien présents à l'entraînement, mais ils sont incertains. Leonardo Balerdi, Pape Gueye, eux, sont incertains, mais eux sont restés aux soins. Alors, est-ce un classico au rabais à cette question? 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Il y a des émissions comme ça, Jingle.
Encore?
Ah, on remélange les équipes. C'est bien aussi. Et oui, c'est au rabais pour Greg et Siani. Qui commence? Greg ou Siani?
Vas-y.
Ouais. Non, c'est pour Rabet. Pia et Nabil qui commencent chez les Nabilou et Pia.
Comme tu veux.
J'en profite pour saluer Eric Rabet sans Ratanak.
Oui, ok.
Il était dans mon émission ce soir.
Oui, très bien, merci pour la promo. Mais bah, ça ne me dit pas qu'il commence. Hein,
c'est Pia qui décide.
Ah, c'est bon, Pia.
Bon, ok, bah, je commence.
Bon, voilà, ok, d'accord. Est-ce un classico au Rabet? Oui, Greg Schneider, on vous écoute.
Bah, pour qu'il soit pas au Rabet, il faudrait qu'il y ait un relatif équilibre des forces et j'ai du mal à le trouver. Marseille est vraiment trop affaibli. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu une histoire, ce classico qui tourne à vide, un peu un truc marketing qui est de plus en plus creux année après année. Quand Marseille arrive à se mobiliser parce qu'ils ont leur force sur un match, je veux bien y croire, mais on peut pas dire c'est une affiche comme ça de manière abstraite. Il faut quand même qu'il y ait un match, il faut quand même qu'il y ait une incertitude, il faut quand même qu'il y ait un challenge. Et je pense que, hélas, pour Marseille, Paris est intouchable.
Pia, c'est non, pourquoi?
C'est non parce que l'histoire de Classico, c'est l'histoire du football qui s'écrit. Ça ne peut pas être un match comme les autres. Ça ne peut pas être un match inintéressant. Il va forcément se passer des choses. Il va y avoir de la grinta, il va y avoir de l'attachement au club, il va y avoir peut-être des cartons. Moi, j'ai envie de me souvenir du match de 2006 où Marseille envoie Semino, son équipe réserve au Parc des Princes. Et où ils arrivent à arracher le 0-0. Cette fois, j'y crois pas trop pour les Marseillais, mais pour moi, ça ne peut pas être un match au rabais. Il va forcément se passer des choses qui vont enjailler les supporters.
On passe du côté de la maison Schneider pour un oui. Pourquoi c'est au rabais?
Pia a dû convoquer des souvenirs de 2006 pour se rappeler d'un classico marquant. Donc, quelques années. Depuis quelques années, quand même, cette affiche, elle a perdu de sa superbe, je trouve. Voilà, on a l'impression que c'est toujours le même scénario, qu'à la fin, c'est très, très, très souvent PSG qui gagne. Cette année, en plus, effectivement, l'OM a beaucoup trop de blessés, manque beaucoup trop de force du côté de Marseille pour que l'OM puisse espérer autre chose qu'un miracle. J'espère pour eux qu'ils feront quand même plaisir à leurs supporters, que ce sera une belle fête, mais j'ai très, très peu d'espoir sportivement sur ce match.
Non, Nabil.
Bon, il y a ceux qui lisent le classement, je ne sais pas si on a besoin d'eux, Greg et Siani, et ceux qui ont une culture foot comme Pia, effectivement. Le stade va battre son record d'affluence. Effectivement, il y a un désintérêt incroyable autour de ce match. On surveillera l'intensité. Le Paris Saint-Germain se prépare pour une Ligue des Champions. On surveillera également Marseille. S'ils font un exploit, ça peut les galvaniser sur une fin de saison. En Angleterre, quand Liverpool était en bas de tableau, jouer Manchester, ça restait the match. Désolé pour ceux qui n'ont pas de culture.
Ok, les amis, c'était un débat face aux philosophes contre les géomètres. Voilà. C'est pas la peine de parler quand je parle, Siani, ouais. Parce qu'on vous entend pas.
Je sais,
vous grognez, mais en silence, s'il vous plaît. Le président Domenech va peut-être pouvoir vous donner un point, on y va, Raymond.
Non.
Je peux grogner encore.
Non, si ce match-là n'est pas un événement, on n'en parlerait pas là déjà. Voilà, ça sera un match qu'on aurait mis de côté. Ça reste toujours quelque chose d'exceptionnel, même si on sait forcément qu'il y a un déséquilibre entre les deux équipes, qu'ils soient au complet, qu'ils ne soient pas au complet, ça ne change rien. D'ailleurs, pour que ça soit un peu équilibré, Luis Enrique ne va pas faire jouer Mbappé. Donc, ça va équilibrer. Si ce match-là n'est pas un match exceptionnel dans le championnat, il n'y en a pas. Ça veut dire que dans notre première division, première ligue.
Mais vous regardez le match quand même.
Il y en a pas et tout le monde va regarder le match, bien sûr, c'est l'événement.
Je veux dire, Greg Schneider, non, vous voulez pas devenir un truc, vous voulez demander une.
Oui.
Audience.
Voilà. Oui. Non, on n'a pas le temps.
Bah non, on n'a pas le temps.
Non, mais
c'est le président, je veux dire, vous lui marchez sur
le pantalon. Tu mets trop de temps pour parler.
J'avais une question là-dessus.
Oui, ben d'accord, mais c'est comme ça. L'audience n'est pas d'accord.
Le truc, je vais le dire. D'accord, je vais le dire.
On va écouter Paulo Lopez. Il débarque en conférence de presse. Donc, à minima, il y a 6 absents. Attention, Paulo Lopez. Comme les MIB, là. Clac, regardez, il y a un petit truc qui se passe. L'objectif, c'est on est prêt. Voilà. Il y a des absents, mais on est prêt. On y va.
Franchement, ça m'en fout ce que les gens pensent de l'équipe. Ce qu'on a, c'est la confiance de toute l'équipe, du coach. Tous les joueurs qui sont à l'OM, ils ont la capacité de jouer tous les matchs. Dimanche, il y aura un joueur contre un joueur, plus l'ambiance qu'il y aura à Vélodrome. Alors, désolé, mais il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse par rapport à nous.
Les blessures ne seront pas une excuse. Paulo Lopez, il est dans son... Mais il dit n'importe quoi, là.
Non, mais il ne peut pas dire autre chose. Un footballeur professionnel ne raisonnera jamais différemment que ce qu'il vous dit. Il ne peut pas lui se dire... Il
officiellement
pas non, mais même officieusement. Même si tu fais jouer un gamin, il va dire au gamin, voilà, c'est ta chance, c'est un grand match, c'est une grande occasion, tu vas pouvoir te dimensionner. Non, un footballeur professionnel, et encore heureux, va pas acter le fait d'aller à l'abattoir.
Un footballeur professionnel sait quand il a rarement de chances de gagner, quand même. C'est un truc.
Non,
le mec,
on croit toujours. Je veux dire, si on est vrai professionnel, on croit toujours. C'est ce qu'expliquait Gasset.
Oui.
Il dit un boxeur contre
Tyson ou Nadal,
on sait qu'on est mort. Mm. Au foot, non. On sait qu'on peut rentrer dans n'importe quel match. La coupe est là pour ça. Je veux dire, on sait qu'on peut, sur un match exceptionnel, 90 minutes, il y a un temps où ça s'arrête. C'est pas comme les sports où il faut marquer le dernier point pour gagner. Mmh. Là, non, à un moment, ça s'arrête. Donc, on peut tenir. Et on y croit. Je veux dire, même quand on est battu, je veux dire, sinon, on n'est pas des sportifs de haut niveau.
C'est pas un match qu'on peut banaliser. Moi, je me souviens qu'avec le même écart, il y avait eu un match où Marseille menait 2-1 et Cavani égalise à la fin sur un
coup franc.
Oui, mais tu as l'impression que le PSG venait bien à la Coupe du Monde, quoi. Ouais. Non, mais pourtant, l'écart, il était quand même disproportionné, quoi.
Nabil, on n'a pas dit que c'était un match qui n'est pas important pour le championnat de France. On dit juste que c'était.
Je vous laisse rétro-pédaler, allez-y.
Non, c'est pas du tout un rétro-pédalage. On peut juste préciser notre pensée, tu vois.
Ouais, classico, voilà. Rabais. Ça demeure un classico,
voilà.
Mais rabais.
Exactement. On a le droit de dire qu'il
est.
On a le droit, je peux juste terminer.
Oui,
on a juste le droit.
Ça serait bien, tiens.
On a quand même le droit de dire qu'il y a moins d'intérêt cette année que sur d'autres saisons où peut-être que Marseille avait d'autres arguments et on se disait il y aura match. Là, on a l'impression, mais on peut se tromper, évidemment, on n'a pas une boule de cristal.
C'est sûr.
On a quand même l'impression que le PSG va leur rouler dessus. Mais après, voilà.
En plus, on a un sacré taquin.
Ouais, ça lui fait pas de mal. Ah,
hein,
je peux terminer. Merci beaucoup. Greg, restez avec nous, mon petit. Quoi que faites pour la tête, je vous avais. Mbappé sur le banc.
Ah, ça c'est
pour moi. Moins l'interrogation. Puisque depuis que Kylian Mbappé a dit à son président Nasser Al-Khelaifi son souhait de quitter le club, le Paris Saint-Germain, cet été, son temps de jeu a chuté en Ligue 1. Depuis cette annonce, c'était le mardi 13 février, Paris a disputé 5 matchs de championnat. Et vous allez voir, on vous a fait un petit truc, une petite infographie. Mbappé a disputé l'intégralité de la rencontre, mais juste d'une rencontre sur 5 matchs. C'était le dernier match à Montpellier. Nantes, 28 minutes. Rennes, sorti à la 65e. Monaco, 45, et puis c'est tout, tu rentres. Reims, une entrée de 17 minutes, et donc Montpellier, 90 minutes. Il a été donc soit remplacé en coup d'envoi, soit remplacé en cours de match. Mbappé remplaçant dimanche chez Vélodrome. Est-ce que ça vous agacerait ? À cette question, Raymond, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Il y a des soirs comme ça.
On change les équipes encore ?
Peut-être.
Peut-être. Allez,
mais
machin
l'autre
là.
Qui l'a gagné.
On y va.
Ouais, on change encore. Ouais. Pour ce super duel, Nabil convolera avec Siani.
Ah ben voilà, on n'avait pas fait gauche-droite.
Ouais.
Encore.
Qui commence, Nabil ou Siani ?
Siani, tu décides, moi
Siani.
Je suis facile ce soir.
Vous dites quoi ?
Tu veux commencer ?
T'as commencé ce soir ou pas, toi ?
Je peux commencer, okay. Allez, ça me pose aucun
Nabil,
problème.
Nabil, commence ? Ok. Pia va convoler avec Greg.
Allez, enfin. Mmh.
Oui, enfin, merci beaucoup.
Merci pour les
Pia.
C'est une blague.
Pia, vous commencez.
Excusez-moi.
Elle voulait pas d'embrouille, elle a fait un petit truc, un petit compliment. Qui commence ? Greg ou Pierre ?
Allez, je commence.
Ok, d'accord. Ça vous agacerait ? Oh, on va aller voir vers l'agacement quand même. Nabil, oui, pourquoi ça ?
Ouais, moi, je suis très agacé parce que Kylian Mbappé, c'est la star du championnat, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Et moi, je pense aux gens qui payent leur ticket. Et qui payent leur ticket très, très, très cher aujourd'hui pour aller au stade. Et les privés d'un tel joueur, bah, c'est comme, je sais pas, sur une affiche, priver LeBron James, priver un autre sportif de très haut niveau dans une autre discipline. Donc ça, Moi, ça m'agace. Et je me pose la question, quand il était entraîneur du FC Barcelone, s'il s'était retrouvé dans la même config, est-ce qu'il dirait à Neymar, tu joues pas, ou est-ce qu'il dirait à Messi, tu joues pas? Ben non, il serait sur le terrain, parce que sinon en Espagne, ça gronderait. Et ben moi, je gronde.
Ok, d'accord, très bien. Pour agacer, Pia, pour agacer.
Non, mort de rire, il n'y a pas de Parisiens dans le stade. Il y a déplacement interdit depuis 15 ans pour les Parisiens. Tu crois vraiment qu'ils vont gronder les Marseillais parce qu'Mbappé n'est pas sur le terrain? Au contraire, ils vont le siffler dès qu'il va toucher le ballon. Moi, je me refuse à être agacé par les choix de Luis Enrique. J'ai confiance, je lui ai filé les clés de mon canetar et je sais qu'il va nous mener quelque part où c'est bien. En revanche, si Mbappé est sur le banc, je serai déçu. Parce que là, ce match-là, là, pourquoi? Parce que c'est lui le joueur le plus attaché au club dans notre effectif. C'est lui le vrai Parisien de l'effectif, quoi qu'en disent les gens. Et j'ai envie, j'ai envie de le voir jouer ce match en entier, de voir mettre un triplé.
Ok. Siani, est-ce que vous avez des arguments à donner à Grégory Schneider, peut-être pour l'aider?
Pia m'a piqué tous mes arguments, Non, je vais rester sur ce que je disais tout à l'heure. C'est déjà un classico que je considère au rabais. Si en plus, Kylian Mbappé joue pas, ce sera vraiment très très compliqué. Alors peu importe s'il n'y a pas de Parisiens dans le stade, il y en aura devant leur télé et je pense qu'ils ont envie de le voir. C'est un peu sa tournée d'adieu, donc il faut le voir sur un classico comme ça. Il a très très souvent martyrisé les Marseillais. Je pense que les supporters du PSG aimeraient le voir encore marqué dans ce dernier classico qu'il pourrait jouer à Marseille. Donc ce serait une grosse déception et je serais vraiment agacé s'il ne joue pas.
Il est seul finalement, super duel. C'est Greg Schneider, notre Robinson.
Primo, c'est un sommet en trompe-l'œil, ça j'ai déjà dit. Ensuite, l'histoire entre Mbappé et le Paris Saint-Germain est terminée. On va pas faire semblant de penser l'inverse. Il reste évidemment la Ligue des Champions et la Coupe, donc qui sont plus importantes. Je pense que lui, avec l'équipe de France, il a dit, il était relativement peaceful. Il a dit, je prendrai ce qu'on me donnera. Si on me le donne pas, c'est pas grave. On ira au bout comme ça. Il va pas faire de vagues. Donc on est quand même sur la bretelle de dégagement. Il n'y a pas de quoi.
On sent Grégory Schneider très agacé.
Mais là, on était 3-1.
Et ça ne lui arrive jamais.
Je suis déçu, mais je suis pas agacé qu'on puisse.
Non, mais vous avez bien accommodé les restes. Voilà, vraiment,
vous avez bien fait. Merci. Ça finit sur la
dégagement. Greg, franchement, là, non, vraiment.
Il s'est arrêté en plein vol quand même.
C'est pas ironique de. Non, mais j'ai pas un air à avoir deux airs quand je parle. Je vous félicite pour. Voilà, vous avez été lâché en race campagne par votre copine Pia, puis c'est tout. Président. À vous de jouer. Agace ou pas? Ça vous agacerait? Non, ça vous agacerait.
Tout dépend de quelle position on se place. Moi, je me place.
Raymond Domenech, c'est votre position.
Je me mets à la place de l'entraîneur.
Bon.
Je gère le PSG. Oh, oui. Je dis, il y a un match de Coupe de France et il y a un match de.
Trois jours après.
Nice, et il y a un match de Coupe d'Europe qui arrive la semaine après. Je dis, la priorité, on a 10 points en championnat. À la limite, Luis Enrique ne fait pas un événement du match de Marseille. C'est un match, il y a 3 points. Même s'ils en prennent qu'un, c'est pas gênant. Il ne va pas, lui, pour faire le spectacle et pas pour faire la tournée d'adieu d'Mbappé dans les stades français. Il y va parce qu'il veut un résultat. Il veut un résultat en Coupe de France, il veut un résultat en Coupe d'Europe. Donc il tient à protéger ses joueurs et à faire tourner son effectif. Je ne trouve pas ça ahurissant.
D'accord, ok.
Je veux dire, en tant que spectateur, oui, je préférais qu'Mbappé montre aux Marseillais ce qu'il est capable de faire par rapport au sifflet qu'il a eu avec l'équipe de France. Mmh. Voilà, j'aimerais bien qu'ils leur disent, voilà, vous m'avez sifflé en équipe de France, mais je vais vous montrer quelque chose. Mmh. Voilà, juste pour ça, j'aimerais bien qu'ils jouent. Mais je ne suis pas agacé, parce que je comprends la position de Luis Enrique.
Raymond, imaginez un Real Barça, donc avec comme coach du Barça Luis Enrique, un Real Barça, je ne dis pas un Real à la baisse, Real Barça, sans Lionel Messi sur le banc.
Non, mais un Real Barça, Lionel Messi, il était au club.
Ouais.
Il n'est pas dans la situation où il dit « je m'en vais ». J'ai fini.
Ah ouais. Là, on parle c'est du terrain, on parle pas de la politique. Toi, tu fais de la politique, là, tu parles pas de sport.
On est en train de parler de quoi, là?
Ils ont 10 points d'avance en championnat, ils ont 10 points.
La semaine d'après.
Il a un match de coupe le mardi et un match de championnat et un match de coupe d'Europe derrière. Il a trois matchs.
Arrêter. Dans quel championnat l'ancien Hidalma a une heure.
Question. Une audience. Demande audience.
D'audience.
Si ton.
Enfin... Ah, j'ai pas donné mais encore.
Moi je prends la parole.
Non. Donc t'es à la place de Luis Enrique.
Oui.
Ton joueur en pleine forme, il n'a pas de pépin physique.
En pleine forme, les deux matchs d'équipe de France, il n'était pas en pleine forme.
Oui, mais bon, il a quand l'énergie. Il va blesser. Et tu ne le fais pas jouer contre l'OM alors que c'est un gros match.
C'est un choix. C'est un choix en se disant qu'est-ce qui compte.
C'est Kylian Mbappé,
il compte. Il y a la Coupe de France, c'est Rennes, c'est pas un match facile. Et derrière, il y a le match du Barça. Je protège mes joueurs. Il fait jouer.
Mbappé se blesse le match d'après. On dit bah, pourquoi il l'a fait jouer ce match-là ? Parce que ça ne servait à rien. Il a 10 points d'avance.
Mais s'ils sont
côte à côte avec Marseille et qu'il faut décrocher.
Ça tient pas ce que tu dis.
Quelqu'un.
Parce que tu sais pourquoi ça tient pas ? Parce que si sa situation contractuelle c'était de rester au Paris Saint-Germain avec les 10 points d'avance que tu viens de dire. Bah, il le ferait jouer et on ne serait pas en train de faire le débat. C'est juste une question qu'ils ont changé la gestion parce qu'il s'en va.
Non, mais
c'est
attends,
pas, il, c'est il pas sur le sportif
mais
pour
non,
moi,
mais il s'adapte.
Cette histoire. Mais c'est comme ça que je vois. Je me trompe peut-être.
Ça peut être sur n'importe quel argument.
Je me trompe peut-être.
Que ça soit sportif, que ça soit politique, que ça soit de la projection sur l'avenir. Ce qui compte, c'est la réalité.
Et maintenant, on va se dire les
et
choses.
Et la réalité, c'est qu'il a besoin de lui en Coupe de France et en Coupe d'Europe.
C'est un cirque. Dans quel championnat au monde tu as le match de l'année? Ah, De Bruyne, tu vas pas jouer. Ah, Haaland, tu vas pas jouer.
C'est arrivé. C'est arrivé à Manchester.
Ah, Vinicius, De Bruyne, tu vas pas jouer.
Ouais. Déjà, le match.
Touche chez nous.
Greg demande la parole.
Ouais, je note juste une petite remarque. Je note quand même sur ce plateau que certains ont eu l'audace de me vendre le match de dimanche Marseille-PSG comme un Real-Barça. Parce que alors là, je veux dire,
c'est notre affiche à nous.
On n'est même plus ça doit être le métaverse là. Tu arrives à un moment, il faut quand même être un peu sérieux et me comparer ce qui est comparable.
Mais attends, si vous pensez Greg, que vous allez avoir t'es de mauvaise foi. Je veux dire pourquoi t'es le premier à défendre quand il y a Levski Sofia ou les clubs roumains à nous expliquer qu'il faut pas être condescendant. Et là, tu nous l'as fait à l'envers.
Levski Sofia n'est pas un club roumain, c'est un club
bien. Non, tu défends la Roumanie par exemple.
Je ne défends
plus d'une fois. Tu m'as dit faut pas être condescendant avec eux. Non, et là, tu nous fais le truc dans l'autre sens. Je t'ai pris dedans, la main dans la peau de miel.
Le derby de Sofia, qui a ses mérites, n'est pas non plus Real Madrid, FC Barcelone.
Arrêtez d'en parler. Là, tu parles de la France de la même manière que certains
prennent
avec condescendance le championnat portugais, la Roumanie ou la Bulgarie. Tu as le même levier, le même réflexe.
Greg,
et je te le dis.
Greg, Raymond et moi, on est choc-barre. C'est tout ce que j'ai à vous dire. On est vraiment choc-barre.
C'est vrai ou pas ce que je dis?
Mais c'est complètement.
Bah si,
c'est complètement stupide.
Un petit truc sur le management de Luis Enrique avec Kylian Mbappé. Donc, il y a la Ligue 1, on est parti de ça. Et puis, il y a les coupes. Et en coupe, il y a eu 3 matchs, Coupe d'Europe et Coupe de France. À chaque fois, c'était en fait l'ancien management, c'est 90 minutes. Est-ce qu'on doit considérer ce classico comme un match, on va dire, un peu à part, un match de prestige et un peu un match de coupe? Ceux qui ont répondu, le classico qui n'est pas au rabais. Allez-y, ma petite Pierre. Vous avez 5 secondes pour vous noyer.
Moi, je tente de devenir une experte en lecture du Luis Enrique et franchement, ce n'est pas facile.
Ah oui, là, oui. Ouais.
Mais j'aimerais quand même rappeler que Luis Enrique, ce n'est pas seulement un calculateur et un coach qui voit l'avenir avec lucidité. C'est aussi quelqu'un, quand il arrive au Paris Saint-Germain, qui a beaucoup parlé des supporters, qui a beaucoup dit qu'il était là pour proposer un football qui ferait plaisir aux supporters. Et il ne peut pas ignorer que voir jouer Mbappé contre Marseille, ça fera plaisir aux supporters.
Ah.
Alors évidemment, s'il se blesse, bien sûr, je vous rejoins, Raymond. S'il se blesse, la seule fois où je le tutoie, c'est à l'antenne. C'est abusé. S'il se blesse, on voudra. Mais voilà.
Des bonbons,
on peut pas nier en tant que je peux pas parler à la place de tous les supporters, mais en tout cas moi, en tant que supportrice du PSG, j'ai tellement envie de le voir jouer ce match. Voilà.
Donc merci. Tu seras agacé qu'il ne joue pas.
Non, je ne serai pas agacé, je serai déçu.
Merci.
Merci d'être
pas sans avoir répondu à ma question. N'inquiétez pas. On a un petit contact parce que dans quelques minutes, on refait la semaine de l'équipe du soir. Pas nous, pas Raymond, pas Siani, pas Pierre. Non. C'est cet homme qui s'agite là dans l'écran géant. Oui, c'est un arbitre professionnel. Enfin, c'est ce qu'il nous dit. La VAR de l'équipe du soir. Hugo Andréani dans quelques minutes. À tout de suite. Est-ce un classico au rabais? J'avais de oui, Greg et Siani. J'avais de non, Pia et Nabil. Qui gagne au rabais? Bah ouais, Greg et Siani. Voilà,
on a gagné. On a dit ce qu'on avait. Bravo.
Mbappé remplaçant dimanche au Vélodrome, ça vous agacerait? On vous laisse encore un petit peu de temps pour voter la une de l'équipe.
Bravo. Ouais, avec une star de la Ligue 1 qui est dans une de l'équipe. C'est Eden Zegrovan. L'affaire du Nord avec cette victoire des Lillois à domicile face aux Lensois. Une belle photo en une de l'équipe, la une de ce samedi.
C'est maintenant que nous revoyons la semaine de l'équipe du soir. Pas nous, pas Raymond, pas Nabil, pas Siani, pas Pia, pas Greg. Non. C'est un arbitre professionnel. C'est ce qu'il dit. Hein. Hugo Andréani va rentrer dans quelques minutes, juste après le jingle. C'est la VAR de l'équipe du soir. Monsieur Andréani, bonsoir.
Bonsoir à tous. Hein.
Quel panne,
On s'est un peu chopé avant votre arrivée.
Mais j'ai vu ça. J'ai vu ça hier. Je me permets de mettre un petit carton rouge à Greg. Insupportable, Greg. Hein. En antenne, c'est pas possible de faire ça. Si vous pouvez le mettre en prison, en régie, s'il vous plaît. Hein. C'est ingérable. Enfin bref, avant de.
Il est arbitre.
On a du pouvoir, hein. On a du pouvoir quand même. Bah, avant de commencer la VAR de cette semaine, Mémé, je voulais revenir très brièvement sur la première prise de parole de Giovanni qui était en direct de Lille. Il s'est passé un petit truc et vous allez voir, après j'ai une surprise pour vous. Mais d'abord, on regarde.
Lille aurait pu se faire surprendre, ça a aussi était le cas, pardon, sur les 10 premières minutes de la première période, de la seconde période. Je vais y arriver, décidément. J'ai été perturbé par le match. Mais sinon, globalement, le match qu'a proposé Lille, et ben voilà, j'ai bafouillé trois fois et le coach arrive, donc vous ne m'entendrez pas plus.
Et oui, alors il aurait été perturbé par le match, sauf que vous savez, à la VAR, on a du budget et on a également des images hors antenne. Ouais. Il faut savoir qu'hors antenne, il y a une petite discussion, Mémé et Giovanni, et ça admet ça.
Ouais. J'ai annoncé ta présence à Grégory Schneider. C'est bon, tu peux faire l'émission, on te garde. Il m'a dit que tu étais solide.
C'est Greg qui valide mes.
Ouais, il dit bien, il est solide, il est sérieux.
Il y avait la complaisance qui l'accompagne d'habitude sur les autres journalistes ou il était vraiment gentil bon,
Il était quoi
Il était sincère,
comme sincère. Toujours. Ouais. Et ben, c'est le moment parfait alors pour commencer la VAR de cette semaine. On y va en régie. Et pour commencer la VAR de cette semaine, quoi de mieux qu'une nouvelle ric-obstruction ? Contexte, Eric nous parle des pénaltys.
C'est bon, moi, les pénaltys, je veux dire, c'est un inversement proportionnel au cul. Plus t'es con, plus tu réussis.
Non, mais.
C'est les deux. Ribéry n'avait pas peur de tirer un péno.
Et oui, on embrasse Francky. Après, vous le savez, Rico, il préfère parler de Messi. Alors, quand on parle Messi et pénalty, bah, ça donne ça.
Il a eu une mauvaise passe. Et pendant un an. Il ratait tous les pénaux.
Tu vas arrêter de nous la faire à l'envers.
Pour terminer, il a marqué les pénaux qu'il fallait en Coupe du Monde.
Ah non, alors. C'est nul.
Et sans transition à la VAR de l'équipe du soir, nous avons décidé de revenir sur l'annonce de cet événement qui arrive sur la chaîne L'Équipe.
Président, bon. On en parle de ce quiz des régions.
Le grand quiz des régions.
Qu'est-ce que c'est ?
La culture football.
Oui, ok Didier, mais ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on gagne dans ce fameux grand quiz des régions ?
Ah, oui. Tête à tête avec Didier Resto.
Le bonheur de venir sur ce plateau, voilà, déguster des bonnes fèves fraîches avec le Panda Royal.
Il y a une très bonne cantine.
Oui, oui, point commun Didier Roustan et Greg Schneider qu'on a pu remarquer à la VAR, c'est les oursins dans les poches. Et puis comme on est des génies de la com, pour promouvoir un événement, on fait comme les grandes chaînes, par exemple TF1 en 2019, ça donnait ça.
Ah ouais.
La promo 2019 de Danse avec les Stars débarque bientôt sur TF1.
Ah oui, et puis M6 plus récemment, ça donnait ça aussi.
Le grand retour du Juste Prix animé par Éric Antoine, bientôt sur M6.
C'est super, et puis nous, ça donne quoi pour le grand quiz de Didier Roustan, là ? Ça donne quoi ?
Vous connaissez, Didier Roustan. Cliquez sur le lien, inscrivez-vous, ça sera la grande bataille.
Et on pense quoi, mais de cette promo ? Ah oui, on sait créer l'événement quand même, Didier, un déguisement péruvien, on sait... Enfin bref. On crée l'événement sur la chaîne, c'est notre truc. Bon, sans transition, je vous propose désormais de visionner les séquences qui ont dépassé les bornes du règlement de l'équipe du soir. C'est les hors-jeux de la semaine. Et pour débuter les hors-jeux de la semaine, une blague qui a encore fait l'unanimité sur le plateau de l'équipe du soir. Alors contexte, on parle de la défaite du joueur de ping-pong allemand Dank You. Allez, place à la blague de Fred Verdier maintenant.
Finaliste des derniers choix de France.
Comment il s'appelle ?
C'est magnifique.
Ah, okay.
Ouais, ah oui.
Dank You. Le site l'équipe.
Non prédestiné.
Et on retrouve maintenant un homme qui n'a pas respecté son contrat.
Et enfin un poignardeur qui sourit, c'est pas dans votre contrat, faites gaffe Damien.
Et oui, mais du coup après ce rappel à l'ordre, voilà sans trucage le visage de Damien qui vient de gagner un duel.
Mais c'est pas ce qu'il a évoqué en conférence de presse. Vous avez raison.
Mais que tous les clubs français prennent la même décision que Rennes et qu'il n'y ait pas de joueurs, en fait, ça sera mieux.
Et oui, d'ailleurs, attention Damien, parce que dans votre contrat, il est également indiqué qu'il ne faut pas souffler les réponses à Karine pendant le quiz de fin, sinon ça donne ça.
Il y a eu 7 buts dans cette rencontre. Un match à 7 buts.
Mais arrête ! Ah, mais c'est bon, je joue plus. Mais je te aime. Mais je m'en fous, je veux pas qu'on m'aide, je veux jouer, c'est fou ça. Arrête !
J'ai rien dit.
C'est fou de toujours tricher comme ça.
J'ai rien dit.
Mais non, mais tu me l'as dit.
Voilà, Karine Galli, vous marquez.
Enfin, j'ai pas envie que tu parles.
Damien, une réaction, Damien ? Allez, toujours hors jeu, on a connu un gros moment avec Régis, tout commence dans un duel, il parle des matchs de mars de l'équipe de France.
Oui. Je dis oui parce que dans le contexte un peu je m'en foutiste de ces rassemblements de novembre.
Et après, aucun joueur de l'équipe ne lui a fait de cadeau, forcément.
Il y a encore du temps pour préparer l'Euro. Hein. Parce qu'on est en mars, hein, on n'est pas en novembre. Mais.
Il ne nous fait aucun cadeau. Hein.
Comme toi, à l'époque,
ça fait 20 ans que ça dure.
Il a attendu 20 ans.
Tu plaisantes pas du tout.
Et même Giovanni a pris un tacle glissé, mais dans les règles cette fois.
Tu t'es fait humilier déjà vendredi. Ah, tu peux au moins commencer ton match différemment.
Correction, c'était samedi.
Samedi, pardon.
Vendredi, vous devriez.
Beaucoup d'erreurs.
C'est une émission approximative.
Oui, oui, c'est un match musclé, ça joue fort sur l'homme. Damien, une réaction?
Hello,
ouais, toujours pas. C'est le problème de Damien. Ça. Une pensée pour Damien qui est sûrement toujours devant sa télé positionné comme ça. Faut aller se débloquer, mon Damien. Allez, on y va. Et puis on continue maintenant avec ces bons gros tacles qui méritent des cartons rouges. Et il y en a beaucoup dans l'équipe du soir. C'est les jeux dangereux de la semaine.
Aïe.
Ça va saigner.
J'ai l'impression qu'on est quasiment d'accord tous les quatre.
Oui. Non.
Est-ce qu'il y a une thématique veste de chasseur?
Non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Vous allez voir, ça va bientôt arriver.
Ah oui, la veste de chasseur?
Oui, j'ai l'impression, oui.
C'est pas votre camarade de jeu, parisien?
Non.
La fouine de l'équipe du soir, Benjamin Corrèze, bonsoir.
Non, apparemment, moi, je sais m'habiller. Et personne ne se retournera, malheureusement, sur le pauvre Léo Marchand, même s'il remporte 4 médailles d'or.
Ok, c'était long, c'était hors sujet.
Il y en a un qui a été bon, de mon point de vue en tout cas, c'est Randal Kolo Muani, qui a fait...
Je ne sais pas le prendre depuis 6 mois, donc... bah oui.
Vous êtes prévisible.
Pas moi.
Hein? Vous êtes prévisible.
Ah, vous aussi.
Là, où il était crevé, là.
Crevé, blasé, lassé...
Ouais.
Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est complètement à plat... Que celle-là, enfin, je sais pas, qu'il a passé une semaine de merde en gros, quoi.
Une semaine tous les 3 mois, c'est pas évident.
Mais pourquoi on fait pas du football à 5? Le rugby, il faut un rugby à 7.
T'es payé cher pour participer à cette émission.
Non.
C'est un col roulé, mais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Non, je suis un peu.
Vous êtes un peu?
C'est la dernière fois que vous me coupez, Olivier Ménard.
J'espère même qu'il y aura vengeance la semaine prochaine. Hein. On ne peut pas laisser ça quand même.
En plus, on va pas se croiser. En plus, il y a l'équipe de choc.
On abandonne l'idée de vengeance alors.
Oui. Malheureusement, l'équipe du soir. Alors, il est désolé d'ailleurs.
Bien sûr, on l'embrasse. Et puis pour terminer, quel joueur de l'équipe du soir va être suspendu la semaine prochaine? C'est la commission de discipline, c'est maintenant.
Allez.
Et pour un match de suspension, c'est Giovanni Castaldi après un duel quand son adversaire a légèrement dépassé le temps imparti. Il a perdu son sang-froid.
Je suis pas sûr qu'il ait cette confiance-là. C'est très bien ce soir. Pour le reste, franchement, je suis pas.
Ce duel est terminé. Ah oui. Giovanni, vous ne seriez pas en train de demander un carton jaune?
C'est hallucinant, en fait, la gestion du temps dans cette émission.
La quoi?
Quoi? Non, mais il y a des gens. Vous avez une montre depuis peu.
C'était.
Le débat, il rallonge tout le temps, les duels, c'est jamais 30 secondes pour les autres.
Franchement, l'émission est un petit peu courte. Directement au frigo. Vous ralentissez le rythme incroyable de ce show.
Allez, un match de suspension, on ne touche pas à Mémé et sa superbe nouvelle montre. Et pour 2 matchs de suspension, c'est Étienne Didot qui a très mal débuté après son entrée en jeu sur le terrain de l'équipe du soir.
Bonsoir Étienne.
Bonsoir messieurs, comment allez-vous?
Bah, très très bien.
Messieurs dames.
Messieurs dames, oui.
Messieurs dames, pardon, je t'ai pas vu.
C'est la boulette. C'est la boulette.
Et oui, une entrée ratée qui a continué jusqu'à la fin de son intervention.
La famille était partagée, non? Dans votre famille, là, qui était... Bah, votre femme était pour le Chili, vous étiez pour la France, et vos filles, c'est comment?
Ouais, ma femme, même pas si sûre qu'elle savait qu'il y avait un match ce soir, mais je pense qu'elle était quand même pour le Chili.
Allez, 2 matchs de suspension, juste le temps de regarder en replay le match franc-Chili, puis acheter un cadeau d'excuses pour Virginie, et puis pour conclure, 3 matchs de suspension, c'est Greg Schneider, oui, car Greg a battu un record, le plus grand nombre de cartons rouges dans l'équipe du soir.
Ah ouais?
Grégory Schneider qui va prendre un petit jeune qui passe son temps à parler sur les offres de Camille pendant que je fais la présentation et tutti quanti. Et encore, allez, ça file en rouge.
Et oui, le deuxième carton rouge maintenant.
Si je puis me permettre, c'était plutôt des
Il a souffert dans l'efficacité également. Sa seconde période. Vous pouvez me laisser. Allez.
Rouge.
Sa seconde période est brillante. Il sert bien.
Il ne faut pas rigoler avec Karine, Greg, ni avec Didier d'ailleurs.
Je n'ai jamais vu ça dans l'équipe du soir. Tu sais quoi? Quelqu'un qui va en prison 3 fois, parce que j'ai le droit de dire, tu prends la rouge à Grégory.
Il l'a mis comme ça,
dans la même émission, c'est une première. Tu devrais être fier.
C'est juste pour le plaisir de
vous.
Mais pour les records.
Et puis on invente une expression juste pour vous, Greg, c'est jamais 304.
Bon, bah voilà.
Est-ce que Greg peut être en prison 4 mois ?
Oui, dans cette émission.
Oh oui,
merci
mois.
À tous d'avoir été à mes côtés.
Allez, bon, du coup, Greg, je suis pour toi. Et puis pour le quiz de fin, en régie, est-ce que vous pouvez me le mettre en prison également ? Jamais 405, on va dire. Voilà. Merci Greg, merci à tous.
Greg Sourier, vous êtes payé.
Et puis à la semaine prochaine. Hein.
Merci beaucoup, Hugo.
Merci, ciao.
À bientôt.
Merci beaucoup, fantastique.
Quiz à présent, on va jouer. À l'occasion du Derby du Nord, donc Lille-Lens, thème. C'est les grands du foot nés dans le Nord. Il y a un maillot du Paris Saint-Germain à gagner que vous montre Tanguy. Voilà. Les grands, non. Les stars, les vedettes, les voilà.
Les voilà.
Nés dans le Nord, mais nés dans le Nord. Ok. Bon, voilà.
Pas que foot. Hein.
Foot.
C'est d'accord.
Foot. J'ai les réponses, c'est foot. Je suis né en 1954. Les grands du foot nés dans le Nord. Pas forcément des footballeurs. Pas... Même si j'ai quitté mon poste en 2017, je suis toujours dans le milieu du foot. Pour 2 points, j'ai longtemps dirigé le RC Lens.
Putain.
Et je suis chroniqueur de l'équipe.
Mais merde.
Martel.
Mais oui, j'avais
Martel. Martel, 1 point pour Grégory Schneider.
Ah bah allez.
Ah non.
Non, mais je cherchais. T'étais pas en prison ?
Allez, maintenant, je suis Ballon d'Or France Football.
Papin,
4 points.
Ah, attendez, mais il parle en même temps que vous posez des questions. C'est pas audible.
Ah ouais ?
C'est pas audible.
Ok. Mais oui, mais
en tout cas. Non, mais c'est vrai,
5 points. Voilà. La VAR a duré un petit peu plus longtemps que prévu, c'était un quiz express, ouais, Peliton.
C'est juste pour les jokers.
6 points, on remet à 0.
Merci. Donc,
Pierre.
C'était agréable.
On va se parler, je vais vous respecter le tour parce qu'il y a un truc.
Au moins, Greg aura gagné quelque chose ce soir.
Je vous embrasse. Bon classico dimanche et puis bon week-end sur la chaîne d'équipe et ailleurs. Bisous.
J'avais Copa en.
To the cold, all these hoes for the street. I put it in her nose, it's gon' make her pussy leak. Pussy niggas told ain't gon' wake up at they sleep. You can't hear that switch, but you can hear them niggas scream. All my hoes do shrooms, nigga, all my hoes do coke.